Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'enquête semble progresser après la blessure par balle de Kenji Girac, qui est auditionné en ce moment même par les gendarmes. Le chanteur se trouvait bien seul dans sa caravane avec sa femme et leur petite fille lors du coup de feu. Que s'est-il passé dans ce huis clos familial? Les expertises balistiques seront déterminantes. On va rejoindre dans un instant notre équipe sur place pour les toutes dernières informations. Augustin Donadieu. À Grande-Synthe, beaucoup d'émotions lors des obsèques du jeune Philippe, 22 ans, tabassé à mort par des mineurs la semaine dernière. On va entendre le témoignage de la mère d'un des très jeunes mis en cause, avouer son découragement et dire qu'elle approuve l'idée de mettre en place des couvre-feux pour les mineurs, comme c'est le cas à Béziers ou encore à Nice. Enfin, Marion Maréchal provoque une tempête politique en dénonçant la gestation pour autrui à laquelle a eu recours le designer français Simon Porte-Jacquemus. Où est la mère, a-t-elle demandé sur les réseaux sociaux, sous la photo de bébés qui ont été procréés par GPA. Plusieurs membres du gouvernement lui ont répondu en la taxant d'homophobie. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce sera l'un de nos débats ce soir. Mais d'abord, il est 17h pile, lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
Bonjour Laurence et bonjour à tous. Plan social d'ampleur chez Casino. L'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté aujourd'hui prévoit la suppression de près de 1300 postes. C'est le plus grand plan social depuis le début de l'année en France. Par mesure de précaution, l'entreprise Nestlé a détruit une partie de sa production d'eau en bouteille de la marque Perrier. Une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un de ses puits du Gard a été constatée. L'exploitation de ces puits a donc été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et puis l'armée israélienne mène une action offensive dans le sud du Liban. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Selon les autorités israéliennes, la moitié des commandants du Hezbollah qui sont présents dans ce secteur ont été éliminés. Difficile de savoir pour le moment si les forces israéliennes ont pénétré sur le territoire libanais.
Merci beaucoup Simon Guilin, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On est en plateau avec Karim Zeribi, ancien député européen. Bonsoir Karim.
Bonsoir Laurence.
Avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico.
Bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien. Laurence.
Geoffroy Lejeune, journaliste au Journal du Dimanche. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir. Et Éric Revel, journaliste bonsoir, aussi. Laurence. Que de journalistes, que de journalistes. On va évoquer les sujets que j'ai évoqués dans mon sommaire, mais tout de suite on va prendre la direction d'Augustin Donadieu, qui se trouve sur place avec Florian Paul, devant le CHU de Bordeaux, où se trouve toujours hospitalisé Kenji Girac, chanteur qui a été blessé dans la nuit de dimanche à lundi. Augustin, bonsoir à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a plusieurs informations nouvelles ce soir. Peut-être que la première, on va commencer, c'est qu'il est entendu en ce moment même par les gendarmes. C'est bien cela ?
Effectivement, c'est une audition qui était attendue et qui était annoncée par le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Kenji Girac, entendu par les enquêteurs dès lorsque son état de santé allait le lui permettre. C'est chose faite. Il est en cours d'audition à l'heure à laquelle je vous parle dans l'hôpital du Haut-Lévêque, juste derrière moi, au sud-ouest de la Gironde. Alors la question, est-ce que Kenji Girac va maintenir la version qu'il a donnée au secours lorsqu'il a été pris en charge lundi matin, à savoir qu'il a tiré accidentellement et qu'il manipulait seul son arme? Il va répondre à cette question aux enquêteurs. En tous les cas, les auditions de ses proches, sa compagne et ses oncles effectuées ces jours derniers viennent attester la version de Kenji Girac, ce scénario comme quoi il était seul à manier cette arme et à avoir tiré accidentellement.
Effectivement, Augustin, on sait aussi que c'était un huis clos familial au moment où l'accident est survenu, c'est ça ?
Tout à fait. Autre information qui nous est parvenue, c'est que le tir de l'arme a eu lieu à l'intérieur de la caravane et à l'intérieur de celle-ci, seulement Kenji Girac, sa compagne et sa petite fille de 3 ans. Alors à partir de là, les enquêteurs vont fouiller la moindre piste. Les premières expertises balistiques montrent effectivement que le tir a eu lieu dans la caravane, mais ne déterminent pas pour le moment qui en est l'auteur, qui est l'auteur de ce tir d'arme à feu qui a blessé Kenji Girac au thorax. Alors les enquêteurs enquêteurs vont analyser les vêtements pour savoir si c'est sa compagne ou si c'est lui-même qui s'était saisi de cette arme. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi du silence parmi la communauté des gens du voyage est très importante. Ce matin, ils étaient une cinquantaine à soutenir l'un des leurs dans l'hôpital du Haut-Lévêque juste derrière moi. Personne ne veut véritablement parler. Mais tout de même, nous avons pu entendre que certains émettaient des inquiétudes quant à la capacité de Kenji Girac à pouvoir retourner sur scène et à pouvoir reprendre le micro un jour.
Merci Augustin Donadieu-Forniopoum pour ces informations à la fois rassurantes et inquiétantes. On espère que lui, on pourra l'entendre à nouveau sur scène. Karim Zerebi, le scénario commence à se dessiner, même si les enquêteurs en sont au tout début des investigations et des auditions. Un huis clos, une arme à feu, les expertises balistiques vont tout dire en fait, elles vont dire la vérité.
Elles devraient dire un certain nombre de choses, effectivement. L'angle d'où le tir est parti... Est-ce que ça peut être un tir accidentel de Kenji Girac lui-même en maniant son arme? Est-ce que c'est quelqu'un s'est saisi de l'arme pour lui tirer dessus? Est-ce que le tir est accidentel ou est-ce que c'est une tentative d'homicide? La vraie question est là aujourd'hui. Force est de constater que Kenji Girac donne une version, que cette version semble attestée et confirmée par les siens. Une brouille familiale où c'est toujours difficile, effectivement, de dire les choses, peut-être. Donc, on ne sait pas si les langues vont se délier ou si c'est un véritable accident et que l'enquête confirmera, effectivement, que c'est un tir accidentel. En tout cas, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est que Kenji Girac va mieux, qu'il est sorti d'affaire. Et on espère effectivement qu'il retournera sur scène rapidement.
Évidemment, après la blessure est grave, Éric Revel. Et il y a aussi ce que disait notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, la loi du silence, qui est très forte chez les gens du voyage.
On peut appeler ça la loi du silence, on peut appeler ça un code d'honneur aussi. Hein. Les gens du voyage ont un code d'honneur. Vous savez, quand vous écoutez des gens qui appartiennent à cette communauté très solidaire, ils vous disent, signer un papier, pour nous, ça n'a pas forcément la valeur. Ce qui a valeur, c'est donner sa parole.
C'est la parole donnée.
Donc, est-ce que le code ce code d'honneur est supérieur aux lois de la République? On peut aussi se poser la question. C'est-à-dire, parce qu'à quel moment, s'il y a eu des choses qui ne sont pas très claires, ils pourront continuer à préserver l'un des leurs Ça me paraît quand même assez compliqué. Mais il y a ça qui est très fort chez les gens du voyage, qui est ce code d'honneur, qui est ce sens de la famille, ce sens de la parole donnée. Et là, peut-être qu'il y a des gages qui ont été donnés que personne, parce que c'est ce que dit l'envoyé spécial de CNews.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il a vu une cinquantaine de personnes de la famille de Kenji venir, mais personne n'est au micro.
Et c'est Georges Fenech, ancien magistrat, qui disait, Jean-Sébastien Ferjou, c'est très rare qu'on ait des aveux dans cette communauté-là, en fait. Il y a une vraie omerta, une vraie loi du silence.
Oui, effectivement, Éric Revel l'a exposé. Ça s'appelle, eux l'appellent du moins un code d'honneur. C'est une question dont on pourrait débattre au regard des lois de la République.
On a souvent parlé
j'ai aucun avis particulier sur cette affaire-là. Ce qui me frappe, c'est peut-être autre chose, c'est-à-dire les progrès de la médecine d'urgence. Parce que vraisemblablement, il y a 50 ans, a fortiori, il y a 100 ans ou 150 ans, Kenji Girac n'aurait pas survécu à ses blessures. Et il y a une thèse qui est très intéressante, qui a été faite par un médecin justement qui regardait les dossiers criminels d'il y a plusieurs décennies et qui disait qu'à l'époque, il y a des gens qui ont été condamnés pour meurtre ou assassinat, alors que vraisemblablement, aujourd'hui, ils auraient été sauvés. Et donc, c'est très important de l'avoir présent à l'esprit parce que, d'un, ça souligne les progrès de la médecine d'urgence et ça permet aussi d'appréhender peut-être l'évolution de la violence et l'évolution des statistiques criminelles parce que là, de facto, ça ne sera pas un homicide, quoi qu'il en soit, puisque, Dieu merci, Kenji Girac est vivant, et souhaitons-lui de s'en sortir le mieux possible.
L'enquête a été ouverte pour homicide.
Oui, pour tentative, j'imagine, puisqu'il n'est pas mort.
Tentative d'homicide, absolument.
Mais vraisemblablement, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, ça aurait été un homicide. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens j'ai vu notamment un sociologue de Grenoble, Sébastien Rocher, qui comparait avec les statistiques et remontait jusqu'à 1300, parce que les données européennes des statistiques...
1300.
L'an 1300. Oui, pour nous expliquer que la violence n'augmentait pas dans notre société.
D'accord.
Mais précisément, cet aspect de la médecine et des progrès de la médecine, il est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent.
On a compris. Tatiana, qu'est-ce que ça vous inspire, ce drame avec Kenji Girac?
Une carrière fulgurante, il faut quand même le dire, quelqu'un de très apprécié, un profil très atypique aussi. Il aurait pu habiter dans une grande maison, etc. Il continue à vivre dans une caravane, il reste avec les siens, etc. Moi, si je devais prolonger pour pas dire les mêmes choses, ce qui peut poser question aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter ou pas dans des brocantes. Si la thèse ça semble quand même un petit peu farfelu, cette histoire de revolver acheté, d'armes achetées dans une brocante. C'est vrai que depuis le début, ce qui est très étonnant, c'est cette omerta qui a commencé à se tisser sur les réseaux sociaux et sur les plateaux. Toute la communauté gitane a commencé à tout de suite évoquer forcément, inévitablement, un accident domestique, sans même se poser la question d'une autre probabilité qui pourrait être soit en effet une tentative d'homicide, soit même la tentative de suicide. Et donc c'est vrai que c'est très étonnant d'avoir cette... tout le monde est au diapason, et donc c'est vrai que ça peut poser quand même une question sur quelles seront les suites de la vérité qui sortira de cette histoire, au-delà des études balistiques, etc. Qu'est-ce qu'on va arriver à savoir ou pas ?
Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Et moi aussi, la première chose que Tatiana a parlé de Kenji, moi aussi j'ai pensé à Kenji en premier quand j'ai su qu'il était entre la vie et la mort, ou dans un premier temps, je me suis dit, parce qu'il a 27 ans, s'il rejoint le fameux club des 27, vous savez, les artistes maudits, les chanteurs maudits qui meurent à 27 ans, qu'il s'agisse d'ailleurs de suicide, d'overdose, etc., ça me fera vraiment quelque chose. Il est éminemment sympathique, son parcours est magnifique. Et la deuxième chose, je crois que je n'ai jamais vu une affaire où la version officielle est à ce point peu crue par le grand public. C'est-à-dire qu'immédiatement, il y a eu cette espèce de suspicion généralisée en disant « c'est impossible, c'est pas possible ». Et après, c'est fascinant, en effet, cette omerta, le fait que j'ai écouté Georges, comme vous le citiez tout à l'heure, Georges Fenech,
dans ces affaires-là, il a instruit, lui, en fait. Aucun neveu.
C'est ça. C'est propre à la communauté gitane, soyons clairs. Vous prenez les Corses, donc dans une configuration identique, il n'y a pas d'aveu. Vous prenez l'Italie du Sud, les Méditerranéens en général, quand c'est des affaires qui se passent en famille, donc on ne se sent pas prêt à accuser un membre de la famille, même si la faute est gravement et qu'il a mis une vie en danger. C'est très propre aussi à la mentalité méditerranéenne.
Clanique,
je veux dire. Ouais, donc, et ce n'est pas propre à la communauté gitane, je veux dire. Donc, dans d'autres communautés, on voit effectivement le même réflexe.
C'est condamnable, mais ça force le respect quand même, je trouve.
Mais
je dis c'est condamnable parce que c'est évidemment une façon de faire obstruction à la justice, mais quelque part ça force un peu le respect aussi quand même. Cette façon, si vous voulez, de faire corps.
Ouais, bon. Mais est-ce qu'on dirait à l'inverse, est-ce que si l'épouse de Kenji Girac avait été blessée et que la même loi du silence valait, on dirait à l'inverse en disant ça force le respect?
Non, pas
parce
trop.
Qu'on se tait sur le fait que potentiellement ce soit un membre de sa famille qui lui a tiré dessus. Je suis pas certain.
Vous avez raison. On va avancer maintenant. J'aimerais qu'on prenne la direction de Grande-Synthe, où aujourd'hui ont été célébrées les obsèques du jeune Philippe, 22 ans, qui est décédé mardi dernier des suites de ses blessures après avoir été battu à mort sur un parking. Une foule très nombreuse, bien sûr, était présente pour lui rendre un dernier hommage. On va rejoindre Maxime Leguet et Fabrice Elsner, qui ont assisté à cette cérémonie. Il y avait évidemment, bonsoir à vous Maxime, beaucoup d'émotions parmi ses proches.
Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, c'est une ville meurtrie et encore sous le choc qui a rendu hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime, vous le rappeliez, d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'avait plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Mais après la sidération et l'effroi, l'heure était désormais au recueillement ici à Grande-Synthe, dans cette église Saint-Jacques où se sont déroulées les obsèques. Ils sont nombreux, les habitants de Grande-Synthe, à être venus pour soutenir la famille de Philippe. Ils ont témoigné à notre micro, je vous propose de les écouter.
C'est un enfant de Grande-Synthe, c'est notre enfant, notre fils, notre frère, et puis... Les circonstances, c'est tellement dramatique, injuste.
C'est un petit jeune que je ne côtoyais pas, hein, mais ça fait partie de notre ville.
C'était une très très belle cérémonie. Il y a eu une partie de la famille qui a parlé.
On a tous lâché notre larme, même si je ne connaissais pas Philippe. Voilà, c'était émouvant. Maintenant, j'aurais préféré être ailleurs que là, en fait.
À la fin de la messe funéraire, le cercueil a été transporté par le corbillard en direction du cimetière communal où Philippe peut désormais reposer en paix.
Merci beaucoup Maxime Leguet. Fabrice Elsner, on rappelle qu'il y a deux mineurs de 14 et 15 ans qui ont été mis en examen dans cette affaire. Ils auraient attiré Philippe dans un guet-apens. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ce guet-apens. Un troisième mineur, cousin de l'un des deux, a été placé en garde à vue lundi. Et Fabrice Elsner a recueilli un témoignage très important que j'aimerais que vous écoutiez. Celui de la mère d'un des très jeunes mis en cause, donc un des jeunes de 14-15 ans, qui s'est exprimé au micro de CNews. Pour elle, elle ne comprend pas. Elle dit « ce n'est pas l'éducation que j'ai donnée à mon fils ». Ça résonne véritablement avec tous les débats qu'on a dans la société. Écoutons-la.
Ce qui me peine, c'est de savoir qu'il est en garde à vue. Et qui dit garde à vue dit qu'il y a des preuves contre lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête parce qu'au lieu de m'avoir dit la vérité, que j'aurais pu aller en parler directement, que me faire passer pour quelqu'un de responsable, que c'est à cause de moi qui ont fait ça. Ou, vous voyez, là, j'ai que des sacrés messages. Moi, j'apprécie pas. Il faut pas non plus se voiler la face que, effectivement, il doit être dedans. Mais pourquoi m'avoir menti ? Ah, s'il est vraiment dedans, je ne concerne pas ce qu'il a fait. Et franchement, il m'a déçu et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur... sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas. S'il est impliqué dedans, je comprends pas pourquoi il a fait ça. S'il est coupable, je vais avoir du mal à m'en remettre. Parce que c'est pas mon éducation. Je les ai toujours bien éduqués. Toujours, voilà. Noah, déjà, de base, n'est pas connu pour des violences à l'extérieur ou violences à l'école. Il n'y a pas. C'est ça que je comprends pas. Mais c'est vrai que je le redirai toujours. S'il a fait une connerie, il doit payer.
Voilà. S'il a fait une connerie, dit-elle, il doit payer. Témoignage recueilli par Fabrice Elsner. Les trois mineurs ont été mis en examen. Karim, quand elle dit « Je me demande ce que j'ai loupé dans son éducation », c'est à la fois poignant et terriblement triste. Parce qu'elle dit « J'ai fait ce que je pouvais, mais je n'ai pas réussi, en fait ».
Je peux comprendre effectivement que des parents qui ont le sentiment d'avoir tout fait pour éduquer leurs enfants correctement aient le sentiment que quelque chose leur a échappé, et qu'un acte grave ait été commis, tel celui-là, qui est un drame inouï pour la famille de Philippe et ses proches. Une bonne éducation est à l'évidence quelque chose qui peut protéger la société. Mais on voit bien que malgré une bonne éducation, il y a des comportements qui peuvent échapper aussi à celle-ci. Dans un phénomène d'entraînement, dans un phénomène de glissement de cette jeunesse, de délinquants mineurs qui sont capables du pire, de la plus grande des violences, voire de la barbarie. Je veux dire, je comprends que cette maman soit dépitée. Peut-être qu'elle a tout donné.
Elle est désespérée,
mais on peut se mettre à sa place. Il y a des parents qui donnent tout, et malgré le fait qui donne tout, il travaille, il essaie d'être à l'intérieur, à l'extérieur, de s'occuper de la gamine. Puis il y en a un qui va commettre un acte dramatique et là, elle va culpabiliser à vie. Elle va se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté ?
Qu'est-ce qu'elle a raté ?
Je veux dire, elle a peut-être rien raté, c'est celui qui a 15 ans et qui a commis l'acte qui doit aussi...
Il faut qu'il paye.
Évidemment.
C'est celui qui a commis les faits, Jean-Sébastien.
Il ne faut pas défendre le défendable.
C'est pas, voilà, mais alors, son fils. Il y en a qui auraient pris la défense de leur gamin c'est en disant possible, c'est pas lui, c'est pas, il ne peut pas avoir fait ça. On l'a beaucoup entendu dans ce genre d'affaires. Là, il y a une forme de lucidité chez cette maman.
Tout à fait, cette maman, c'est un témoignage poignant. Elle a la dignité, effectivement, de reconnaître la responsabilité de ne pas chercher à le minimiser en trouvant des excuses, en quelque sorte. De toute façon, c'est compliqué au regard de la brutalité du crime. Après, qu'est-ce qu'une bonne éducation ? Parce que je ne me prononce certainement pas sur cette femme-là en particulier, mais je lisais le témoignage de la mère d'un des autres accusés, me semble-t-il, qui est aussi la tante, puisqu'il y a deux cousins, qui racontent comment elle essayait justement de donner une structure, y compris parce qu'elle avait recueilli son neveu, dont le père était en prison et dont la mère ne s'occupait pas, qui allait de foyer en foyer, qu'elle essayait de le prendre chez elle. Mais en même temps, elle voyait qu'il publiait des photos extrêmement violentes sur TikTok, il n'avait plus de téléphone parce qu'il avait cassé, mais elle lui prêtait quand même le sien. Et puis elle ne voyait pas trop le problème, elle l'achetait. C'est ce qu'elle raconte, uniquement ce qu'elle raconte. Qu'elle achetait elle-même des pétards parce que comme ça, il pouvait fumer à la maison et qu'elle contrôlait ce qu'il fumait. La notion de bonne éducation, elle est très malheureusement relative. Et c'est vrai que la société n'a pas aidé, quoi qu'il en soit, un certain nombre de parents, soit parce qu'il y a des quartiers qui ont été abandonnés par la République, soit parce que les signaux envoyés par la société ont établi une espèce de confusion entre la contrainte et l'autorité, et comme si l'autorité était en quelque sorte une forme d'atteinte aux droits des enfants, alors que non, bien sûr que par moment, il faut savoir faire preuve d'autorité et il faut savoir sanctionner, bien sûr. Raisonnablement, évidemment.
Après, vous pouvez aussi vous coucher et pas savoir que vos enfants font le mur, ça c'est vieux comme le monde.
Non, mais c'est pas ce que vous décrivez, bien sûr.
Ce que vous me décriviez. Eric,
et moi, je vais vous choquer. Moi, j'ai pas envie de me mettre à la place de la mère de l'un des accusés, j'ai envie de me mettre à la place des parents de Philippe.
voyez, parce que quand je vois le cercueil rentrer dans le corbillard, quand je vois le cercueil rentrer dans le corbillard avec cette couronne de fleurs blanches, j'ai envie d'être primaire parce que l'émotion est primaire, la douleur est primaire, et j'ai envie de vous dire que moi, surtout, ce qui me préoccupe, c'est comment les parents de Philippe, ses amis, ses frères, ses sœurs, je ne sais pas s'il en a, vont pouvoir continuer à vivre. Et dans un deuxième temps, peut-être, si j'avais le temps, et si j'étais un peu moins sous le coup de la colère, de ces brutalités, de ces barbaries qui se répandent dans ce pays comme des traînées de poudre, peut-être qu'après, je me mettrai à la place de cette dame qui dit « qu'est-ce que j'ai loupé ?» Mais là, vous voyez, on voit le cercueil, on voit la couronne de fleurs blanches, on voit ce petit cercueil. Vous voyez, c'est passé. Voilà, c'était un adolescent, il avait 20 et quelques 22, années. 22. Bon, ben moi, j'ai surtout envie de me mettre à la place des parents.
C'est tout à fait compréhensible. Tatiana.
Mère d'un petit garçon, moi, je suis très triste pour Philippe, mais ce qui me préoccupe, c'est quand même que vont devenir des enfants ultra violents de 14 et 15 ans comme ces deux ados. L'un avait quand même un profil déjà condamné pour vol, l'autre pour des faits de violence. Celui de 14 ans, son père a déjà fait plusieurs séjours en prison, prison ferme, violence aussi sur sa famille et ses fils. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Comment on s'y prend? Alors, je pense que dans les propositions gouvernementales, la question de l'internat pour des enfants qui partent comme ça à la dérive, c'est leur donner un cadre. Je regretterais quand même toujours, même s'ils sont encore très jeunes pour cela, mais qu'on a arrêté le service militaire parce que je pense malgré tout que ça donnait un cadre, une éducation, des règles, l'autorité et même le permis de conduire pour ceux qui font du rodéo urbain, etc.
On peut le regretter. Hein,
certes, mais ça donnait quand même un cadre qu'on essaye de retrouver aujourd'hui. Et puis, dernière chose, la question de la majorité numérique à 15 ans. Puisque ça se passe quand même tout ça sur des réseaux sociaux, ce sont des guet-apens sur un réseau social, en l'occurrence un site de rencontre, pose aussi, je pense, mérite d'être voté. Et je pense que c'est très important parce qu'ils sont quand même tous ces jeunes biberonnés à l'ultra-violence et dans le quotidien et dans les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même là des mesures à faire, ma chanteur.
Oui, Geoffroy.
Moi, vous savez, on utilise souvent l'expression France Orange Mécanique pour parler d'insécurité. Et je trouve d'ailleurs parfois un peu à tort, parce que quand vous regardez le film de Kubrick, en réalité, c'est vraiment une bande de jeunes qui décident de se donner du plaisir dans l'ultra-violence et qui tombent sur des gens qui n'ont rien demandé, etc.
C'est un peu là, pardon.
Justement, je trouve que d'habitude, on est dans d'autres phénomènes. Crépole, pour moi, ce n'est pas la France Orange Mécanique. Il y avait d'autres phénomènes, c'était un truc plus identitaire, etc. Il y a toutes les affaires qu'on a commentées récemment avec la petite Samara, tout ça, ce n'était pas la France Orange Mécanique. Là, c'est exactement ça. Et je trouve qu'il y a une dimension qui est presque encore pire, c'est celle de la préméditation et du gang organisé avec ces fameux rendez-vous, parce que ce n'est pas la seule affaire à Grande-Synthe, il y en a eu d'autres. C'est quoi ce côté prémédité pour aller...
De piéger des gens qui étaient sur un site de rencontre, c'est ça.
Rencontre,
c'est pas la seule victime,
des homosexuels,
la famille de Philippe dit que ce n'était pas le cas, qu'il n'était pas sur ces sites de rencontre.
Et on est lui la cible.
Et que ce n'était pas lui la cible, qu'il est arrivé un peu par hasard.
On pense même à l'enquête même sur le fait que ce soit une erreur,
et que ce soit une erreur
de la volonté des agresseurs, et je me place de leur point de vue et de cette histoire de Orange Mécanique, c'est d'aller piéger, en effet, des pédophiles présumés, des homosexuels. Ils ont vraiment leur cible et ils leur tombent dessus. Et je trouve ça froid dans le dos parce que, en fait, le choc de Orange Mécanique, le film, c'était la gratuité de cette violence.
Et là,
on est exactement là-dedans.
On est un peu dans le même coin de figure.
Oui, Karim, rapidement, Jean-Sébastien. Quel que soit le motif, ce qu'on retient, c'est quand même la finalité de ces jeunes qui viennent peut-être d'horizons différents, d'origines différentes, c'est la violence. Et la violence de manière inouïe à laquelle ils se livrent. Sans aucune retenue, jusqu'à battre quelqu'un à mort. Donc ça, c'est quand même qui est très frappant de la société dans laquelle nous vivons. Après, on va en parler certainement, le couvre-feu, on va en parler, c'est bien, mais anticiper et répondre au premier acte de délinquance, comme il se doit, pas par un rappel à la loi, pas par une mesure molle, pas, je veux dire, par une mise à l'écart de la société pour une rééducation très puissante, très sérieuse, très exigeante, me paraît quand même être une réponse qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour ne pas laisser ces adolescents glisser aussi vite dans un sentiment d'impunité. Et enfin, il y a deux familles qui sont meurtries là, même si effectivement il y en a une qui a perdu un enfant et qui ne le reverra jamais. La maman qui a témoigné tout à l'heure, la famille est aussi meurtrie. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Alors, Jean-Sébastien, rapidement.
Moi, ce qui me frappe, c'est que oui, certainement, il y a une dimension goût immodéré pour le sang, pour la violence, et on voit bien qu'il s'est développé dans notre société. Mais il n'y a pas que ça, vous le disiez, Geoffroy. C'est la volonté de faire respecter leurs règles, selon leur vision de l'honneur, c'est-à-dire s'en prendre à des homosexuels, s'en prendre à des pédophiles, quoi qu'il en soit. Alors, déjà, la confusion qui est faite entre les deux est absolument épouvantable, mais peu importe. Ça montre quand même quelque chose, qu'on est une société qui n'est plus capable de donner, elle, des cadres. C'est-à-dire que les gens vont créer leurs propres règles. On parlait tout à l'heure de code d'honneur.
Pour certains individus, mais on respecte, on est 90%, on respecte les règles quand même.
Je ne vous dis pas l'inverse, Laurent. Je vous dis juste que manifestement, bien souvent, on considère qu'il y a des politiques ou des postures qui seraient trop fermes, trop autoritaires, qui seraient une atteinte aux droits des personnes. La réalité, c'est que les personnes en question elles-mêmes, bien souvent, elles sont en recherche de cadre. Quand vous vous mettez dans une bande et que les comptes se règlent à coups de perceuse dans les genoux...
Et il y a une hiérarchie, il y a des règles...
Version religion radicale, c'est parce que vous cherchez un cadre très fort et nous ne sommes pas
en
capables de voir ça.
À notre époque de
je lisais il y a quelques semaines l'interview d'un pédopsychiatre qui avait cette phrase que je trouve très vraie, on a les ados qu'on mérite et ils sont le reflet de notre société. Et aujourd'hui quand même, je pense qu'il y a une responsabilité collective. Moi je me souviens de cette image pendant les émeutes de ce père, tout le monde disait c'est fabuleux qu'il va chercher son fils, le met dans le coffre. C'est quand même ultra violent.
L'oreille,
vous prenez votre enfant et vous mettez dans le coffre d'une voiture. Est-ce que c'est normal? Je me souviens aussi d'un jeune qui m'avait expliqué, enfin un jeune père, qui m'avait expliqué que son cousin faisait partie justement des émeutiers. Il avait demandé à sa femme et son fils de partir à l'hôtel. Il l'avait convoqué chez lui, fermé la porte à clé, passé à tabac. Et il me dit, il n'a plus jamais recommencé. Est-ce que ces méthodes-là, on inculque aussi, on est dans une société ultra violente.
C'est vrai.
Allez. Et donc il y a aussi une question à se poser sur la façon dont on éduque nos jeunes
dans un instant.
Et la violence aussi qu'on véhicule.
D'accord. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. Je vois qu'on va continuer ce débat sur la façon dont on doit éduquer les enfants. Tout de suite. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité. Simon Guillain, Simon.
L'émotion à Grande-Synthe, dans le Nord, près de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans, tabassé à mort le 16 avril dernier. Et aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Un troisième mineur a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Après la mort hier de 5 migrants dans la Manche, 3 personnes ont été interpellées au Royaume-Uni. Il s'agit de 3 Soudanais âgés de 19 à 22 ans, soupçonnés d'avoir facilité l'immigration clandestine et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni. C'est ce qu'a indiqué l'agence britannique de lutte contre la criminalité. Et puis François Fillon, reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. La Cour de cassation a toutefois ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées à son encontre. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains jours. François Fillon a été condamné le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité, Laurence.
Merci beaucoup, Simon Guillain. On va reprendre dans un instant notre débat sur la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. Mais avant, j'aimerais qu'on parte tout de suite à Paris rejoindre Franck Papazian, qui est le président des organisations arméniennes de France. Bonsoir, monsieur Papazian. Merci beaucoup d'être sur CNews ce soir. En ce 24 avril, nous commémorons les 109 ans du génocide arménien. À 18h, Gabriel Attal sera à vos côtés pour un hommage républicain aux victimes de ce génocide arménien. C'est important de ne pas laisser oublier ces victimes arméniennes du génocide.
C'est important pour nous parce que 109 ans après, la Turquie ne reconnaît toujours pas sa responsabilité dans le génocide arménien. Cette Turquie qui non seulement ne reconnaît pas sa responsabilité, mais organise le négationnisme du génocide partout dans le monde. Et cette Turquie qui a présidé au panturquisme en 1915, préside au panturquisme aujourd'hui en 2024, puisque comme vous le savez, les forces du panturquisme, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont organisé l'épuration ethnique des Arméniens dans le Haut-Karabakh au mois de septembre 2023, au mois de septembre dernier. 100 000 Arméniens ont été déportés, chassés de leur territoire. On a eu le génocide en 1915, on a cru que c'était terminé. Et on a eu l'épuration ethnique, qui est un crime contre l'humanité également, en 2023, par l'Azerbaïdjan, l'autre force du panturquisme. Alors oui, c'est important. C'est important de se battre pour contraindre la Turquie à reconnaître ce génocide et obtenir également des sanctions contre l'Azerbaïdjan, parce qu'on ne doit pas laisser faire en 2023 ce qu'on a peut-être laissé faire à tort en 1915.
Monsieur Papazian, est-ce que dans l'actualité, le mot génocide est beaucoup employé, peut-être à tort et à travers? Qu'est-ce que ça suscite chez vous?
Non, je pense que la conception moderne du génocide a sa définition. À part la Convention de 1948, il faut une décision gouvernementale et puis un crime de masse et puis une idéologie qui préside à ce crime. Alors effectivement, le génocide arménien est le premier génocide du XXe siècle. Il y a eu la Shoah après, il y a eu de nombreux massacres. qui, par la définition de 48, peuvent effectivement s'apparenter à un crime de génocide. Je pense qu'il faut punir les crimes, il faut punir les crimes contre l'humanité, il faut punir les massacres, ceux qui massacrent pour que ne se reproduise pas cette horreur, l'horreur. En tout cas, en 2023, pour nous, c'est inadmissible. Et nous demandons au monde entier de prendre ses responsabilités et de condamner et de punir l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev, qui doit être puni, parce que s'il n'est pas puni, il poursuivra ses crimes contre les Arméniens et l'Arménie.
Merci beaucoup, Monsieur Papazian, d'avoir pris du temps pour nous répondre sur CNews. Vous êtes à côté de Godéric Bey, qui a permis ce duplex. Voilà pour ce génocide arménien. Nous commémorons les 109 ans de ce génocide arménien avec Monsieur Papazian. J'aimerais qu'on revienne un instant sur notre débat sur la violence des mineurs, la façon dont les parents sont responsables dans l'éducation de leurs enfants. Vous disiez, Tatiana Renard-Bazac, avant la pause, on ne peut pas les éduquer avec de la violence. En réalité, en mettant une paire de claques ou une fessée, les châtiments corporels sont interdits dans notre pays. Karim, ça vous a fait réagir. Parfois, il faut employer la méthode musclée avec ses enfants.
Ce qui m'a fait réagir, c'est l'exemple qui a été pris sur ce mineur qui n'était pas un enfant, hein, donc qui était un mineur, un adolescent, que son père a été cherché avec vigueur, je dirais, pour le faire monter dans la voiture. On était en pleine émeute.
On était en pleine émeute. C'est ça mon propos, Karine, c'était de le mettre dans le coffre. J'ai trouvé ça extrêmement violent.
Mais non, mais le mettre dans le coffre. Ça me chagrine ce que vous dites. Quand un parent s'occupe pas des enfants, il est démissionnaire, donc il faut le pointer du doigt pour le sanctionner. Quand un parent va chercher son enfant en pleine émeute, le met dans la voiture, certes dans la malle, mais je pense que le garçon n'est pas mort. Le garçon a été remis en place par son père dans une démarche vigoureuse, en pleine émeute, pour lui dire « ta place n'est pas là, ta place est à la maison ». Il l'a raccompagné. Et ce parent-là, on le pointe aussi du doigt. Qu'est-ce que fait un parent face à un gamin de 15 ans qui est intenable? Il s'en occupe pas, on va le mettre au banc de la société et dire il faut le responsabiliser. Il s'en occupe, on dit « oh, il l'a fait avec un peu trop de vigueur ». Moi, je pense qu'il faut qu'on s'arrête, parce que la maltraitance, oui, lutter contre la maltraitance, oui, c'est une évidence. On a des lois, et il y a des assistantes sociales, il faut faire très attention. Mais de là à laisser la parole d'un enfant, qui est l'enfant roi aujourd'hui, parce qu'il se fait un peu réprimander, aller voir la CAF, aller se plaindre à l'école, et des parents qui s'en occupent, voir.
J'entends.
Enfin, je dis, à un moment donné, il ne faut pas trop en faire. Je veux dire, l'éducation, ça nécessite aussi une autorité, parfois un peu vigoureuse. On est tous passés par là, on n'en est pas mort.
Ce n'était pas mon propos. Moi, mon propos, c'était de parler d'ultra-violence parfois de certains parents, de certaines... Voilà.
L'ultra-violence, c'est la maltraitance.
Allez, dernier mot, quelqu'un veut départager nos deux amis qui ne sont pas d'accord?
Moi, je suis assez d'accord, pardon, avec ce que disait
Jean-Sébastien.
Karim, au sens, c'était quand même dans une émeute. Enfin, dans une émeute, et on peut imaginer que le gamin, si déjà il était dehors en train de participer à une émeute, simplement le mettre dans la voiture, il aurait peut-être pu ressortir de la voiture. Donc je m'abstiendrai de juger. Je comprends la réflexion que vous faites, Tatiana, de manière générale.
Ça symbolisait quelque chose, c'était pas...
Enfin, cet exemple-là me paraît pas...
Non, mais c'est vrai qu'on pointe du doigt. Tous les parents démissionnaires de la Terre, on peut pas
reprocher. Demander aux parents, d'essayer de faire quelque chose.
Moi, j'ai bu du petit lait en écoutant Karim, parce qu'on est très souvent pas d'accord, mais là, vraiment, j'étais d'accord à 100%. C'est-à-dire que cette image, moi aussi, je m'étais dit, la vache, c'est un début de solution quand même, parce que si tous les parents avaient réagi comme ça, il y aurait eu beaucoup moins d'amitié dans les rues.
Par ailleurs, plus le droit d'avoir de voiture.
Vous n'avez pas compris mon propos.
Non, mais si, j'ai compris.
J'ai deux secondes, je vais quand même le réexpliciter deux secondes. J'ai pris cette image symbolique
et on laissera finir Geoffroy aussi.
Que parfois, dans certaines familles, il y a aussi une violence qui est là, qui est institutionnalisé, donc c'était peut-être pas le bon exemple, mais ça symbolisait cela.
Bien sûr,
mais... Et que donc, du coup, c'est une ultra-violence. On parle que des réseaux sociaux, mais en fait, il faut déjà commencer aussi à s'attarder à ce qui se passe aussi.
Il y a des violences intrafamiliales.
L'un des ados là, qui a 14 ans, vicieux. Ça n'excuse rien. Apparemment, il y a aussi une ultra-violence au sein même de sa famille. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi arriver à inculquer. Nous sommes les exemples de nos enfants. Donc, si on leur apprend la violence, qu'on s'étonne pas qu'ils reproduisent aussi quelque part cette violence. C'est ça ce que je veux dire.
Je pense que les violences intrafamiliales, c'est peut-être une des choses les plus glauques que notre société vit, parce qu'en effet, c'est très répandu. On a tous en tête les récits atroces avec des bébés brûlés par des cigarettes dans leur berceau, etc. Et pardon, alors, j'arrête là, mais en fait, je prends volontairement cet exemple parce que c'est une partie du drame que c'est. Ça existe, mais je pense que c'est un problème. Comment dire? Ce sont des familles désocialisées, ce sont des gens qui sont quasiment en marge de la société. C'est une France presque perdue qui agit comme ça. sur la question de l'éducation, je pense que on n'a aucun problème de violence chez les jeunes qui vient d'un surcroît d'autorité dans la famille. Je pense que c'est pas le comportement dont parlait Karim ou la gifle qui peut partir, etc. Même si je sais que il faut pas la promouvoir, je pense que c'est pas ça qui crée des délinquants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ouais, c'est plutôt l'absence d'éducation. Eric, vous voulez rajouter
juste
un mot
parce que quelque chose un peu en creux parce que ça me fait penser à l'excellent reportage que vous avez diffusé lundi. Fait par le correspondant d'Europe 1 à Montpellier, l'autorité n'est pas une valeur qui est en perdition. Au contraire, quand on voit comment les trafics de drogue dans ces quartiers sont mis en place, avec quelle autorité le coordinateur RH de l'ensemble du réseau gère son réseau, et avec quel respect ceux qui sont en dessous respectent l'autorité de celui qui est au-dessus, l'autorité n'est pas une valeur dépassée.
Je vous le disais tout à l'heure, idem dans le cadre de la radicalité religieuse. Il y a une demande de cadre et d'autorité très forte, et nous sommes une société qui peine à répondre à cette
demande. Il y a autorité et terreur.
Quelle qu'elle soit.
Non, pas les deux.
Le refus de l'autorité.
Bien sûr, mais là, je parlais de la demande sociale, en fait.
Et on va regarder maintenant une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui s'est déroulée hier soir à Torcy, peu avant 21h, où un véhicule a fait un rodéo avec des gens qui filmaient la séquence. Regardez.
Wesh! 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 Le caraman est en live! Double cosmosite, les gars! Wesh! 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 Wesh!
En fait, il y a tout ce qui ne va pas dans notre société qui est condensé dans cette vidéo. Donc, on entend la sirène des policiers derrière qui tentent d'arrêter la voiture qui se retourne parce qu'elle va trop vite, évidemment, et les gens qui sont sur le passage, qui filment et qui disent « ouais, ouais, super ». Tout est à l'envers, en fait. Il n'y a rien qui fonctionne.
Et vous pourriez rajouter que certainement certains accuseront la police d'avoir poursuivi le voyou.
Ah, mais bien sûr, ce sera la faute des policiers, voilà, vous verrez à la fin.
Ça, c'est de surcroît, on peut rajouter effectivement ça dans la manière dont on va lire ce fait divers. Non, c'est catastrophique. Et effectivement, il y a un condensé là de ceux qui veulent échapper à l'autorité, établir leurs propres règles, et ceux qui sont les voyeurs et qui se...
Comment dirais-je ? Qui essaie de redresser la voiture, hein, pour que la course poursuite se poursuive.
Non, qui, quelque part, voilà,
on en plein délire.
Apprécie, on va dire, un spectacle qui est une horreur absolue. Quoi.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Tatiana ?
Deux choses. D'abord, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Service militaire, on apprenait aussi à conduire, un permis de conduire, accessoirement, mais surtout... Il faut à un moment donné quand même se poser la question, parce qu'en effet, la terreur des policiers, c'est qu'il y ait tout à coup une bavure.
Un blessé.
Et qu'on leur impute justement la mort.
Mais bien sûr.
Au Royaume-Uni, je constate quand même qu'il n'y a pas de mort. On a le droit de tamponner la voiture ou la moto pour justement
l'arrêter. Il y a des blessés, hein.
Il y a des blessés. Il y a des blessés, mais il n'y a pas de mort. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Et on n'accuse pas les policiers de le faire, et on n'accuse pas les policiers de vouloir arrêter des rodéos et des courses poursuites. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser cette question-là? Et puis, évidemment, la saisie obligatoire, mais là, vu l'état de la voiture, la saisie évidemment du véhicule ou de la moto qui fait ce rodéo. Mais il y a un moment donné,
il y a des saisies, mais bien sûr, ce sont des véhicules.
Non, mais juste, si je peux me permettre, je note une légère incohérence dans le discours de Tatiana. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était révoltée par l'idée qu'un père puisse, d'une manière assez violente, mettre son enfant. Fugueur et meutier dans un coffre, mais là, elle trouve ça assez normal qu'on puisse venir avec une voiture télescoper un scooter au risque de blesser ou de tuer celui qui est dessus. Mais bon.
Arrêtez, parce que regardez à quoi ça mène. Ça mène
à
ça mène à ça. À des drames.
On peut être en contradiction avec soi-même, ça peut arriver.
Ça vous arrive de temps en temps.
Ça m'arrive, bien sûr.
Geoffroy, Jean-Sébastien, non. Bon, ok, on avance alors.
Ben, si vous voulez, mais.
Non, mais je vous entends pas. Vous dites ça les intéresse pas.
L'intérêt.
Je trouve ça formidable.
L'intérêt.
Mais non, bien sûr que non.
Formidable. Mais réagissez, vous n'êtes pas le poisson mort.
Non, l'intérêt d'avoir les images, quand même, pour les forces de l'ordre.
Le poisson pourrait
quand même. Encore une fois, parce qu'il faut penser aussi aux forces de l'ordre,
oui,
qui sont toujours mises en accusation. L'intérêt d'avoir les images.
Oui.
On se rend compte que là, elles n'y sont pour rien. Elles ont fait leur job. Et il va s'encadrer, si je puis dire, le terme n'est pas très joli, que tout seul. Donc, ce n'est pas la faute des forces de l'ordre. S'il n'y a pas les images.
On va
avoir des gens qui pointent la police.
Alors, comment, c'est quoi les solutions? Parce qu'aucun de vous là n'a expliqué.
Ah non, moi je suis pas pour la poussette sur les scooters. Non, je suis pas pour contact.
Les Britanniques le font. Je suis pas favorable à ça. Ça fonctionne au Royaume-Uni et pas seulement au Royaume-Uni, dans d'autres États européens.
Je sais pas quelle est la meilleure solution pour empêcher pour arrêter les rodéos ou alors les courses poursuites. En revanche, je reviens sur la question du service militaire. Moi, j'en parle souvent ici. J'ai grandi dans un milieu militaire et en plus de la Légion étrangère qui est un peu l'arme de la deuxième chance pour des gens qui en fait ont besoin de faire.
Ça vous a marqué passé. Ça
Ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, je trouve des réponses dans les sujets de société qu'on traite ici, et notamment parce que quand je fréquentais des légionnaires, vous savez, il y en avait beaucoup qui étaient il y a beaucoup d'étrangers, mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont issus de l'immigration ou pas d'ailleurs, mais souvent issus de l'immigration. Et la plupart de ceux que j'ai rencontrés, pour ne pas dire tous, m'ont dit l'armée m'a sauvé parce que si j'étais resté chez moi, je serais devenu un délinquant. Bon. On parle de gens qui.
On parle du service militaire, de la Légion étrangère,
C'est intéressant en fait parce que c'est pas juste un slogan caricatural de dire service militaire, c'était une classe d'âge entière qui se retrouvait à un moment donné confrontée au même code. Moi je regrette beaucoup de pas l'avoir fait, j'étais pas la génération, j'étais pas concerné. Mais
c'est trop jeune.
Quant à, pour ça, oui.
Vous auriez peut-être tout fait pour y échapper, comme 90% des gens.
Honnêtement, j'aurais été déshérité donc j'aurais pas pu. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que une classe d'âge entière qui tout à coup est confrontée à une règle avec des instructeurs et vous ne pouvez pas vous en échapper, je pense qu'il y avait beaucoup moins de course-poursuite.
Oui, mais c'est une solution qui, malheureusement, on aurait pu prendre une décision différente à l'époque, quand Chirac a décidé d'y renoncer. Mais ça n'est pas possible d'y revenir aujourd'hui. Ça serait un coût financier épouvantable. Et
mais il n'y a plus les structures, il faut arrêter de rêver au service militaire, ça ne se remettra pas en place.
Que ça ait eu ce rôle-là.
Il n'y a plus les militaires, il n'y a plus les casernes.
Ce qui était d'ailleurs assez faux sur la fin, parce que sur la fin, c'était devenu très inégal socialement. Parce que ceux qui avaient
ça fait 20 fois qu'on l'a
débattu. À l'heure où chacun sort son référendum, pourquoi c'est pas une question qui a été posée aux Français? Alors pas le service militaire qu'on a connu. Pourquoi reparler effectivement du service militaire calqué comme on l'a connu? Non. Là, on a évoqué à un moment donné.
Service civique.
Oui, mais service civique, mais le service civique volontaire, pas volontaire. Il faut qu'on arrête avec tout ça, quoi. Un service civique dont doivent s'affranchir une catégorie d'âge, notamment ceux qui n'ont pas d'activité, et pourquoi ce serait un drame? Je veux dire, quand vous avez...
Mais il faudrait que ce soit pour tout le monde, Karim. Sinon, ce n'est pas constitutionnel.
Mais si vous avez un parcours de vie, Laurence...
C'est constitutionnel.
Je veux dire, pourquoi la société traiterait quelqu'un qui est déstructuré comme quelqu'un qui a un parcours de vie tracé?
Sinon, on le prend autrement. On essaie de structurer les gens à l'école, dès le début, dès le départ, dès les premières offenses, dès les premiers comportements.
Il faut tout revoir.
Mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas de soutien non plus derrière les équipes éducatives. Justement, quand elles essaient de montrer de la fermeté, bien souvent, ça se retourne contre elles.
Les parents, tout milieu confondu, considèrent
que l'école est un service, finalement, et ils traitent les professeurs comme si c'était un prestataire de service avec la même attitude.
Même pas, ils les giflent, les profs.
Oui, tout le monde ne va pas jusqu'à gifler, mais il peut y avoir du mépris verbal qui n'a pas besoin de passer par la violence physique, et c'est tout milieu confondu. Donc je pense que cette structure-là, oui, c'est une réflexion que nous devons tous avoir et prendre en charge les enfants.
Un référendum pour le rétablissement du service militaire, c'est ce que vous proposez.
Moi je vous dis, faisons en sorte que dès le plus jeune âge, les punitions soient possibles à l'école, que les équipes éducatives soient soutenues.
Vous parlez de 30 ans d'idéologie qui a déconstruit l'autorité à l'école.
Demandons les chiffres officiels. Est-ce que vous avez en commission d'appel le nombre de sanctions d'exclusion qui sont annulées, annulées. Après les émeutes?
Allez-y.
Mais c'est une majorité.
Bon, d'accord.
C'est une majorité.
Là, pour le coup, je cautionne tout à fait ce qu'il vient de dire, parce que c'est vrai qu'on veut prendre plein de mesures là, pour renforcer l'autorité à l'école, des profs, etc. Mais tant qu'il y aura cette idée de pas de vaguisme et en effet de aucun soutien de la hiérarchie, mais même, ça commence même pas au rectorat, ça commence même au proviseur de l'école parfois vis-à-vis des professeurs, il y aura en effet un souci d'éducation des enfants dans les écoles.
Au-delà de l'autorité seule et unique dans le débat qui est le nôtre, je vais être d'accord une nouvelle fois avec Geoffroy Lejeune, c'est dans les annales de Punchline, mais il a raison. Au-delà de l'autorité, ce que disait Geoffroy tout à l'heure, quelqu'un qui est né dans les quartiers, qui rencontre quelqu'un qui est issu de la ruralité, quelqu'un qui n'a pas les codes républicains et qui va, derrière la levée des drapeaux à un moment donné, avoir une posture de respect. Ça fait partie aussi de la conception de la citoyenneté républicaine. Donc l'armée a permis à des gens qui n'avaient pas ces codes à 18 ans de les acquérir. Disons-le.
Mais à quel âge est-ce que vous croyez, regardez ce dont on parlait juste avant, les gamins de 14 ans, de 15 ans à la Grande Sainte, est-ce que les gens déstructurés, c'est à 18 ans que vous les rattrapez. Mais c'est trop tard. Après, on pourrait décider de faire comme ça se fait aux États-Unis, de lever le drapeau dans les écoles pour justement inculquer un peu plus de fierté d'être français, inculquer un peu plus les valeurs de la République. Mais moi, je pense que ce que vous décrivez, c'est en bout de course et que c'est trop tard. De toute façon, il y a TikTok.
Les témoignages.
Parce que la réalité de la société est celle-là aujourd'hui.
Les témoignages de ceux qui sont passés par là et qui vous expliquent, ça a changé ma vie. Mais ça veut dire que c'était pas trop tard. C'est jamais trop tard. Quelqu'un de 18 ans, il a la vie devant lui.
Je suis d'accord.
Oui, je suis assez d'accord. Bon, on va terminer sur une note un tout petit peu plus légère, si vous le permettez, en regardant Emmanuel Macron qui joue au football ce soir. À plaisir dans les Yvelines, il a chaussé les crampons pour un match destiné à lever des fonds. On voit Jacques Vendroux qui vient d'arrêter un but dans les cages. L'opération pièce jaune, qui est évidemment la fondation présidée par Brigitte Macron. Emmanuel Macron joue dans l'équipe. Alors, je ne le vois pas, parce que je n'ai pas mes lunettes. Numéro 3. Je ne sais pas si vous le voyez.
Maillot 3.
Karim a très bon. C'est le numéro 3. Ouais. Ah oui, il est au centre de l'image, c'est ça?
Oui.
Ok, d'accord. Et alors, visiblement, David Pujol me dit qu'il a déjà perdu, enfin, l'équipe est en train de perdre 1-0.
Moi, j'ai regardé les images de tout à l'heure. Donc,
c'est sympathique.
Non, mais ça peut être sympathique de voir le président en short jouer au ballon. Techniquement, je le trouve un peu emprunté, sans être trop critique.
C'était lui qui avait la balle.
Techniquement, je le trouve un peu emprunté. J'ai vu les images de tout à l'heure. C'est pas un grand technicien du football.
Geoffrey Lejeune a l'air passionné par le match.
Mais oui, j'adore le foot. Exactement. Non, mais c'est sympathique, non? Comme.
Ah voilà, on a le président à plein cadre là. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'intelligent là-dessus?
Ah bah intelligent, je sais pas. Non mais ouais, moi je trouve ça plutôt sympa. Ça. Vous vous souvenez Giscard jouait de l'accordéon torse nu. Bon, il y a toujours
torse nu, vous êtes sûr?
Ah oui, bien sûr.
J'ai revisité toutes les archives.
Ah bah regardez, il y a une photo dans
j'ai
match.
Pas vu l'accordéon,
ah bah si,
torse
si,
nu.
Si. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas pendant un match de foot d'ailleurs. Pardonnez-moi, c'est pas l'accordéon.
Voilà.
Donc voyez que je vois pas Emmanuel Macron retirer son t-shirt à la fin de du match pour autant. Alors, moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, il y en a plein qui se diront, bon, pendant que le président joue au football, on attend pour vendredi les agences de notation sur la dette française. Mais bon, voilà.
Il y a un but. J'ai envie de vous dire, peut-être votre qui joue au football.
Vous savez, c'est du pain et des jeux, en fait. C'est du pain et des jeux. Le pouvoir d'achat s'est effondré, il y a moins de pain. Mais on continue à faire rêver, y compris quand le président joue, avec des jeux.
Imposez votre voix de femme dans ce
pays. L'assemblée, certains diront qu'il commence à mouiller. Le maillot à la veille de son discours sur l'Europe et à quelques
semaines d'échéance
cruciale. Ça a l'air quand même très très mal parti pour le camp présidentiel. Voilà. Mais soi-disant, on sait qu'il est fan de foot. À la fois, je ne suis pas sûre que son.
Et qu'il est sportif, sa vision très verticale du
pouvoir. Il est fan de foot. Allez au bout, même si ça ne vous plaît pas, vous parisiens. Quelle est son équipe préférée?
Marseille.
Ah là là.
Donc je pense qu'il connaît un peu le football quand même.
Geoffroy.
Et ben Laurence, moi je voudrais.
Je sens que vous avez un truc puissant.
Basculer sur la partie footballistique du sujet. Donc l'équipe du président, le Variété, vient d'égaliser un partout. Donc déjà voilà. Et j'ai regardé la composition de l'équipe. Je pense que l'équipe de Macron va gagner parce que
regarde des matchs de foot.
Didier Deschamps,
Robert Pires, Marcel Desailly, Carambeu. Non mais attendez, c'est champion du monde. Je pense que ça va gagner.
Pas mal de champions d'Europe qui jouent à l'Olympique de Marseille.
Et on va, c'est vrai, ouais,
je confirme.
À jamais les premiers. Et on va quand même saluer Jacques Vendroux
qui est dans les buts.
Qui écrivait ce week-end dans le JDD qu'il avait toujours rêvé d'être gardien de but. Ça y est, c'est fait.
Mais oui, alors je voulais qu'on l'ait là dans l'émission, mais il est un tout petit peu occupé. On l'a vu là dans les buts arrêter un ballon et il en a laissé passer un. Voilà. On va terminer sur cette image du président Macron qui joue pour le Variété Club de France à plaisir dans les Yvelines au profit de la Fondation des Pièces Jaunes. On va faire une petite pause. On se retrouvera dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'actualité va s'imposer à nous. On va y évoquer l'arrestation d'un jeune de 16 ans qui vient d'être donc interpellé parce qu'il a été suspecté de projeter une tuerie de masse dans un lycée. C'est un pédopsychiatre qui a donné l'alerte. On fait le point dans un instant. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes au 201e jour de détention des otages israéliens dans la bande de Gaza. 201 jours sans nouvelles, sans savoir s'ils sont vivants, blessés, torturés ou violés. Ce soir, le Hamas vient de publier sur le réseau social Telegram une vidéo d'un otage enlevé le 7 octobre au festival Nova. Il s'appelle Hersh Goldberg Polin. C'est un jeune israélo-américain de 23 ans, né en Californie et qui vivait avec sa famille à Jérusalem. Très amaigri, il apparaît sur cette vidéo amputé de sa main gauche. Il avait reçu une grenade au moment de son kidnapping. En plus de se présenter, il interpelle violemment dans cette vidéo le gouvernement de Benjamin Netanyahu qu'il accuse de ne rien faire pour le libérer. Je pense à ce jeune homme ce soir, forcé par ses geôliers à insulter son propre pays. Je pense aussi à toutes les jeunes femmes, à tous les enfants qui sont aux mains des barbares du Hamas. Et je n'ai qu'une question ce soir, quand leur calvaire va-t-il prendre fin? On va évoquer cette question ce soir dans Punchline. Il est 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord, près de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Koopman. Ce jeune homme de 22 ans, tabassé à mort le 16 avril dernier. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Un troisième mineur a été mis en examen en début de semaine pour meurtre avec guet-apens. Plan social d'ampleur chez Casino. L'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté aujourd'hui prévoit la suppression de près de 1300 postes. Il s'agit du plus grand plan social depuis le début de l'année en France. Par mesure de précaution, l'entreprise Nestlé a détruit une partie de sa production d'eau en bouteille de la marque Perrier après la découverte de bactéries dans l'un de ses forages. L'exploitation de ces puits a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Enfin, 201e jour de détention pour les otages donc détenus par la bande, dans la bande de Gaza par l'organisation terroriste du Hamas. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à ces otages ce soir et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h02 sur CNews et Europe 1. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, journaliste, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, Tatiana Renard-Barzac, essayiste, Éric Revel, journaliste. On a été rejoint par Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur cette information qui vient également de nous parvenir, très inquiétante. Un jeune de 16 ans a été arrêté. Il a été suspecté de projeter une tuerie de masse dans un lycée à Antibes. Expliquez-nous.
Alors l'alerte vient d'un pédopsychiatre fin février et c'est cette alerte qui a permis de mettre au jour ce que semblait projeter ce mineur de 16 ans. À ce moment-là, il était hospitalisé sous contrainte, cet adolescent, et il est suspecté d'avoir dit, confié à son médecin, qu'il voulait faire une tuerie de masse dans son lycée à Antibes. Donc le pédopsychiatre a signalé cela, les policiers se sont saisis de l'affaire, la perquisition menée chez lui ne les a pas rassurés sur le profil de ce jeune homme. Sur plusieurs supports chez lui, il a bien mis par écrit son objectif de faire un carnage dans son établissement scolaire. Les policiers ont également trouvé des armes blanches, un gilet pare-balles et sur les murs des dessins de croix gammées. L'adolescent, lui, a été interpellé lundi. Pourquoi lundi ? Parce que c'est là qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné précédemment. Une expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis a décelé chez lui un déséquilibre mental. Le jeune garçon est décrit dans cette expertise comme islamophobe, antisémite, raciste, mais l'expertise conclut qu'il est accessible à une sanction pénale, ça veut dire qu'il est responsable de ses actes pénalement. En garde à vue, selon nos informations, il s'est dit fasciné par les tueries de masse. Alors l'enquête doit maintenant déterminer si ce projet était très avancé ou non.
Merci pour ces informations, Sandra Buisson. Ça nous ramène à la violence des mineurs qu'on évoque depuis le début de la semaine. Tatiana Renard-Barzac, il y a la mort de ce jeune homme Philippe, on va l'évoquer dans un instant, à Grande-Synthe. Il y a ces jeunes de 14, 15, 16 ans qui se déchaînent. Il n'y a désormais plus aucun frein à cette violence. C'est la France orange mécanique.
Bah, c'est le rajeunissement d'abord de cette violence. C'est la barbarie mais total dans tous les crimes là, que vous venez d'évoquer ces dernières semaines. Et puis, c'est le manque d'empathie absolue. Quand on voit que ces deux ados, 14 et 15 ans, l'ont roué de coups, Philippe, qu'il était totalement dévisagé à 14 et 15 ans, ils l'ont laissé pour mort sur le sol, on se dit qu'il y a quand même là un vrai souci au-delà de l'ultra-violence. Comment on va faire ? Alors, je pense que c'est très maigre en fait comme solution de considérer qu'en fait il faut donner des cours d'empathie comme font d'ailleurs les pays du Nord, le Danemark, la Finlande. Ça marche. Cela dit, il y a des résultats. Donc, au moins essayons. Mais là, on a quand même un vrai souci d'une jeunesse en roue libre et avec une vraie question sur l'éducation. Les profs ne peuvent pas tout et ne peuvent pas se substituer aux parents. Merci. Les parents ont une vraie responsabilité et donc responsabiliser les parents, ce que souhaite faire le gouvernement, est à mon sens une des premières étapes. Déjà, malheureusement, ce n'est pas la seule.
Autre information CNews avec vous, Sandra Buisson. On parle donc d'un attentat déjoué, a priori, de ce jeune homme qui était à Antibes. Là, on va parler d'un autre jeune, 16 ans aussi, hein, c'est bien cela, en Haute-Savoie, qui lui voulait passer à l'acte pendant les Jeux Olympiques.
Oui, alors, la précision pour le jeune d'Antibes, la qualification terroriste n'est pas retenue. C'est le parquet de Grasse qui est en charge des investigations. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. En revanche, dans cette nouvelle affaire que nous vous révélons en ce moment, c'est un jeune de 16 ans qui lui a été interpellé en Haute-Savoie à Marigné. Il est suspecté d'avoir voulu faire un attentat pendant les JO, suspecté aussi d'avoir cherché dans une chaîne Telegram à trouver de quoi fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr au nom du califat islamique. C'est ça qui a donné l'alerte. Ce jeune mineur, il était suivi pour radicalisation. Alors en perquisition, les enquêteurs ont découvert notamment une déclaration d'allégeance à l'État islamique. Il a reconnu qu'il projetait un attentat à la défense pendant les JO. Selon ses déclarations, il a dit qu'il voulait passer à l'acte avec une ceinture explosive ou un fusil. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette affaire et les investigations doivent déterminer à quel état d'avancement était son projet.
Terrible révélation que nous fait Sandra Buisson à l'instant, Geoffroy Lejeune. Deux profils très différents, deux jeunes de 16 ans, un avec qui était interné, l'autre qui voulait passer à l'acte, radicalisé, qui voulait passer à l'acte pendant les Jeux Olympiques. On est face à un phénomène de société qui est l'ultra-violence de la jeunesse qui est prête à commettre des attentats terroristes.
Moi, je dirais qu'on est face à deux phénomènes de société parce qu'à part leur âge, il n'y a pas grand-chose qui les rapproche, ces deux jeunes personnes. Dans un cas, c'est quelque chose qu'on connaît malheureusement maintenant assez bien, c'est les personnes radicalisées qui sont suivies, Dieu merci, et détectées la plupart du temps. En tout cas, on évite plus d'attentats qu'on en subit. Et ça, on le connaît par cœur. Ce qui est inquiétant et ce qui est un peu nouveau, c'est l'âge, parce que des attentats commis par des jeunes de 16 ans, je ne crois pas qu'on en ait connu en France. Et donc, ça veut dire que maintenant, les islamique ou toutes les nébuleuses islamistes peuvent toucher tout type de profil. Parfois, c'est des déséquilibrés. Parfois, c'est des gens qui se radicalisent dans la journée. Parfois, c'est des gens qui, des clandestins ou des gens qui sont illégalement sur le territoire ou des gens qui sont même parfois légalement, etc., etc. Maintenant, ça peut aussi être des jeunes de 16 ans. Voilà la nouveauté. Dans l'autre cas, je pense que ça, c'est un fait de société, même si c'est pas tous les jours. Et,
le jeune d'Antibes.
Le jeune d'Antibes. J'ai été moi aussi fasciné, mais pas au sens morbide du terme, par les tueries de masse aux États-Unis. Et notamment, je devais être lycéen d'ailleurs au moment de Columbine. Et donc, du coup, j'avais lu beaucoup de choses à l'époque à ce sujet-là. Et je me souviens, les médias, et notamment américains, avaient tiré beaucoup de conclusions sur les défaillances de la société américaine, sur la perte de repères, sur l'isolement des jeunes, sur le web déjà à l'époque, etc. Et ils s'étaient remis en question beaucoup sur leur modèle, en fait, et notamment leur modèle éducatif quand ils avaient vu cette tuerie. Si aujourd'hui, un jeune de 16 ans en France qui soit néo-nazi, marginal, peu importe, à l'idée d'aller faire une tuerie de masse dans un établissement, je pense qu'il faut qu'on commence à se poser des questions.
Éric Revel, deux affaires mettant en cause deux mineurs. Sandra Buisson vient de nous révéler les contours de ces deux affaires. À chaque fois, il y avait un risque majeur, non seulement pour la sécurité de ces jeunes, mais aussi de ceux qui, des Français, en réalité.
Oui, oui. Un jeune de 16 ans qui commettrait un attentat radicalisé en France. Effectivement, je n'ai pas mémoire que ce soit déjà produit. Alors, il y a le côté un peu artisanal quand même de la démarche, qui est à la fois choquante et qui est à la fois un peu troublante. Je cherche ceinture explosive sur réseau social, contactez-moi à mon numéro de téléphone. Mais vous savez que, puisqu'on parlait des États-Unis, je me souviens de l'attentat qui avait eu lieu pendant le marathon de Boston. Vous aviez deux jeunes tchétchènes, absolument deux frères, et qui avaient mis au point un engin infernal, je crois que c'était une cocotte minute dans un sac à dos, et ça avait fait... c'est peut-être ce qui est peut-être pour les services de sécurité, ce qui est peut-être le plus difficilement parable,
parce que précisément... Sandra Buisson.
Juste sur la jeunesse, oui, c'est déjà arrivé que des jeunes soient suspectés de projeter des attentats. Et c'est d'ailleurs ce qui inquiète les autorités. Le procureur national antiterroriste l'a dit lui-même il y a déjà quelques mois en disant qu'il voyait un rajeunissement des profils des individus qui passent à l'acte sur notre sol et qui veulent passer à l'acte sur notre sol, radicalisés par eux-mêmes et sans lien direct forcément avec l'État islamique. C'est ce qu'on appelle la menace endogène qui est la menace principale. Mais effectivement, les services spécialisés et le parquet antiterroriste notent un rajeunissement des profils.
Et là, dans les deux cas que vous évoquiez, ils ont pu intervenir avant la commission des actes. Jean-Sébastien Ferjou.
Je voyais un responsable policier l'autre jour qui me montrait, vous savez, il y a des sites qui imitent des sites de commerce grand public et sur lesquels vous pouvez trouver vraiment tout, justement, des armes, des explosifs. Alors, il y avait une annonce, il me montrait une annonce où c'était aussi quelqu'un qui proposait ses services pour tabasser quelqu'un d'autre à 50 euros. Donc, de toute façon, je pense qu'on aura de la peine à gérer la facilité d'accès, même si les services de sécurité...
On coupe les réseaux sociaux.
Donc,
c'est une solution radicale. On coupe tout.
D'algorithme que de réseaux sociaux dans l'absolu. Et quand même, l'état de droit nous protège de ce genre de mesures. Mais ce que je voulais vous dire par ailleurs, c'est qu'il faut miser sur effectivement le fait de canaliser ce qui se passe chez ces jeunes-là, d'autant que c'est très différent les projets d'attentats avec les tueries de masse. Les tueries de masse aux États-Unis, Xavier Hofer, vous savez, le criminologue, a notamment travaillé dessus. Quand vous regardez le profil des gens qui se sont livrés à des tueries de masse, c'est
tout profil confondu. C'est-à-dire, il y a des blancs, des noirs, des latinos, il y a des riches, des pauvres, des jeunes, oui. Des vieux. C'est tout profil confondu.
Ça traverse toute la société, malheureusement.
Le point commun est la crise de la masculinité. Et c'est une vraie réflexion que nous devons avoir sur notre société, parce que la société envoie effectivement des messages assez contradictoires aux jeunes hommes. La plupart arrivent à s'en dépatouiller, mais il y a aussi des gens plus fragiles psychologiquement qui n'arrivent pas à se dépatouiller avec cette injonction contradictoire où d'un côté, il y a quand même une tendance à vouloir des hommes à l'ancienne et de l'autre côté, interdire tout ce qui relève d'une masculinité trop affirmée.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On partira à Grande-Synthe où les obsèques du jeune Philippe, 22 ans, se sont déroulées avec beaucoup d'émotion. Et puis, on écoutera aussi la mère d'un des jeunes mineurs mis en cause. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, direction Grande-Synthe, où les obsèques du jeune Philippe, 22 ans, se sont déroulées cet après-midi. Il y avait une foule très nombreuse sur place. Maxime Le Guay et Fabrice Elsner, vous êtes sur place. Bonsoir à tous les deux, avec évidemment beaucoup d'émotions parmi ses proches.
Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, c'est une ville encore meurtrie et sous le choc qui a rendu hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'avait plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Alors, passé la sidération et l'effroi, l'heure aujourd'hui était désormais au recueillement ici dans cette église Saint-Jacques où se sont déroulées les obsèques. La famille, les proches de Philippe ont pris la parole durant cette cérémonie. Ils ont eu ce mot tout en sobriété. Tu vas profondément nous manquer, Philippe, avec beaucoup d'émotions qui étaient perceptibles dans leur voix. Mais ils n'étaient pas seuls aujourd'hui, les proches de Philippe. Beaucoup d'habitants de Grande-Synthe sont venus également assister à ces obsèques pour soutenir la famille de Philippe dans cette épreuve, ce drame qu'il traverse, mais également pour rendre hommage, eux aussi, à ce jeune garçon qui était une figure connue et appréciée de tous ici. Alors, à la fin de la messe funéraire, le cercueil a été dirigé par le corbillard en direction du cimetière communal où Philippe peut désormais reposer en paix.
Merci beaucoup Maxime Le Guay et Fabrice Elsner. Trois mineurs de 14 et 15 ans sont donc mis en examen pour assassinat dans le cadre de cette affaire. Fabrice Elsner, avec qui vous êtes, mon cher Maxime, a recueilli le témoignage de la mère d'un de ces jeunes mis en examen. Elle ne comprend pas ce qui a pu se passer. Elle estime que voilà, ils doivent payer, ces jeunes, pour ce qu'ils ont fait. Écoutez ce témoignage, dont la voix a été légèrement trafiquée afin qu'on ne la reconnaisse pas.
Moi, je dors. Je leur fais confiance, ils n'ont pas à sortir. Déjà, ils doivent me réveiller pour sortir. Et là, s'ils ont fait quelque chose pendant que je dormais, eh ben, c'est à eux de payer ce qu'ils ont fait. Mais pas à nous. Nous, on n'est que la famille. Moi, je suis que la maman. Je suis responsable, certes, mais je ne suis pas responsable de leurs actes. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps, vous voyez. Nous, on leur dit de ne pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir, c'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit? Je ne ferai pas la même bêtise avec mes trois derniers, quoi. Maintenant que je sais que, même qu'ils soient, ils ont 12 ans, 13 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à temps qu'ils sont majeurs, il n'y en a pas un qui sortira la nuit. Grand maximum, ce sera 20h rentrée, fini. J'ai compris ma douleur, vraiment.
Voilà pour ce témoignage d'une maman qui semble désespérée, Eric Revel. C'est l'autopsie, quoi, d'une défaillance éducative ou d'une défaillance collective.
Oui, mais oui, sans doute. Mais je vais vous choquer, Laurence.
Non, sans doute pas, mais allez-y.
Moi, je veux bien écouter toutes les explications de cette dame, même si c'est son enfant meurtrier va en prison et qu'elle va s'en vouloir. Mais surtout, quand je vois les images de ce cercueil, celui de Philippe, de ses parents, je pense d'abord, avant tout, aux parents. Mm-hmm. Parce que la douleur, elle est primaire, l'émotion, elle est primaire. Et puis, ça me faisait penser à quelque chose, Laurence. Vous voyez ces roses blanches, là? Mm-hmm. Il y a quelques années, pour les plus anciens, moi, mon père écoutait beaucoup cette chanson, c'était Bert Silva qui chantait Les Roses Blanches. Mm-hmm. Et Les Roses Blanches, c'était un enfant qui apportait des roses à sa maman décédée à l'hôpital. Ouais. Bien aujourd'hui, Les Roses Blanches, c'est les parents qui les apportent pour leurs enfants massacrés.
Mm-hmm. Terrible, terrible. Tatiana Renard-Mazac.
Ultra-violence de cette ultra-jeunesse, un rajeunissement dingue, avec des mesures. C'est-à-dire que il y a quand même une vraie question sur d'abord la peine. Ils vont comparaître dans combien de temps? C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut une comparution d'abord immédiate, une peine extrêmement sévère tout de suite.
une responsabilité aussi des parents, le cas échéant, parce que là, on est quand même a priori dans ces deux cas de mineurs, dans des cas de récidive, hein, des deux mineurs, 14 et 15 ans, déjà condamnés l'un, celui de 15 ans, me semble-t-il, pour vol, et celui de 14 ans pour plusieurs faits de violence. Donc il y a quand même une vraie question de récidive là pour ces deux jeunes qui se posent. Et puis, vous évoquez tout à l'heure, Geoffroy, la France orange mécanique. Je vais rajouter la France du film de Bertrand Tavernier, Lapin. En fait, pour moi, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que on est là quand même dans une histoire de guet-apens absolument terrifiant, où apparemment, il y a d'autres cas qui malheureusement risquent de se rajouter à celui de Philippe. Heureusement, pas avec des morts, mais avec d'autres jeunes hommes qui auraient été justement pris à ce piège-là. Et donc voilà, mais c'est vrai que là, on se sent en fait démuni face à cette jeunesse et cette ultra-violence et ce manque d'empathie de ces enfants à qui il faut vraiment qu'on réapprenne en fait un cadre, qu'on redonne un cadre absolu.
On est d'accord, même si les parents, comme là on a entendu cette maman, je crois le jeune, disent voilà, j'ai fait ce que je pouvais, mais je dormais, la nuit je dors. Ben oui, et ben, il fait le mur, il est sorti et il a commis cet acte horrible.
Bon, on va pas incriminer cette maman là. Enfin, je veux dire, elle a de la peine, elle aussi, même si en effet il y a une hiérarchie dans les peines que Eric a tenté d'établir et il a raison. Mais comment vous dire, les causes ont des conséquences en fait. Tout ce qui ne fonctionne pas dans cette affaire en fait existe depuis longtemps. On l'a sous les yeux et on a espéré que ça se passe bien. Malheureusement, ça ne se passe pas bien. Et moi, je reste sidéré par ce que j'ai vu. Je suis allé me balader sur le réseau social Coco, le fameux réseau social Coco.
C'est quoi ce truc-là alors?
Bah écoutez, c'est un réseau social sans inscription, donc vous mettez juste, vous mettez votre pseudonyme et vous avez accès à tout un tas de joyeuseté. Donc vous pouvez avoir des rencontres avec des mineurs, des rencontres avec, enfin bref.
Mais pourquoi c'est pas interdit ça?
Alors il y a une question, pourquoi c'est pas interdit?
C'est pas interdit.
Parce qu'il est hébergé, à l'étranger, Laurence, ça joue beaucoup. Et ensuite, deuxièmement, vous découvrez une société parallèle en fait avec des gens. Alors, elle est virtuelle, donc Dieu merci, mais parfois elle pénètre dans le réel et c'est ce qui s'est passé avec Philippe. Et en effet, il faut rappeler, l'enquête le dira plus précisément, mais c'était un guet-apens et il y en a pas eu un seul. Et vous entrez dans
un
monde.
Il était peut-être pas visé.
Là aussi, l'enquête le dira de manière plus précise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des gens. Imaginez-vous, vous avez un rendez-vous un peu, un peu suspect avec quelqu'un par ce réseau social. Quelque chose dont vous avez un peu honte, que vous ne voulez pas assumer, etc. Vous vous faites tabasser, vous n'avez pas forcément porté plainte. Donc il y a aussi toute une partie peut-être de ce monde parallèle qu'on ignore complètement et c'est une face sombre de la France.
Jean-Sébastien Ferjou.
On travaille régulièrement sur Atlantico avec un psychanalyste qui s'appelle Rabinovitch, je vais y arriver, qui travaille notamment dans le fil de Maurice Berger et qui décrypte très bien comment nous sommes une société qui depuis 40 ans, 50 ans a voulu trouver essentiellement des causes sociologiques à la violence. Parce que c'était la pauvreté, parce que c'était les circonstances économiques, parce que c'était les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, et qui finalement rappelle que la nature humaine, chacun d'entre nous est susceptible d'être violent et que c'est quelque chose qui se gère dès le plus jeune âge et que nous sommes une société qui s'est désarmée, qui a dissous
ses règles, ses repères.
Exactement, et qui a perdu tout ce qui était des sources de sens. Aussi, parce qu'il n'y a plus rien qui indique cette jouissance de détruire, parce qu'elle est présente chez les très jeunes enfants, vous savez, ne serait-ce que pour détruire un château de sable, le château de sable du gamin d'à côté sur la plage. Ça commence comme ça, on est censé le canaliser, et nous sommes une société qui a cessé de le faire parce qu'on voulait voir des causes de la violence ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout, mais on a oublié qu'elles étaient en premier lieu au sein de chaque être humain, et à force d'avoir oublié ça, on s'est totalement désarmé, et c'est probablement ce qui s'appelle la décivilisation.
Et qui a désinvesti aussi dans son hôpital public et dans les services psychiatriques, il faut le rappeler à chaque fois.
Il y a
beaucoup moins de prise en charge. Donc même les gens qui sont repérés, vous les mettez où? Vous en occupez comment si vous êtes déjà un parent?
Mais la situation de la psychiatrie française est absolument tragique.
Je rajoute qu'à propos de l'agression de la jeune Samara, cette fois c'est à Montpellier, vous vous rappelez, il y a deux autres mineurs qui ont été mis en examen. Il y en avait déjà, je crois, deux autres qui avaient été interpellés. Donc ça fait quatre mineurs au total qui s'en sont pris à une jeune fille de 13 ans parce qu'elle ne s'habillait pas, comme vous en rappelez, comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire avec le voile notamment. Et ils ont été mis en examen pour ces deux mineurs. Pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. On est face... Alors, je ne sais pas si dans les chiffres, on est face à une explosion des actes de violence des mineurs, mais ils nous sautent au visage, en fait, en réalité. Et on est assez démunis en tant que parents, en se disant, Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a raté au point de vue de la société? Et parce que je crois que, je l'ai dit cette semaine, il faut tout un village pour élever un enfant. On ne peut pas élever un enfant tout seul. Il y a l'éducation qui joue un rôle, mais il y a le voisinage, il y a la famille, l'entourage, je crois. On ne peut pas faire tout seul, en fait.
Ouais, en tout cas, je ne suis pas sûr que vous, Laurence, vous ayez raté quelque chose particulièrement. Je ne dis pas ça pour vous précisément, mais il y a quand même aussi beaucoup d'enfants qui ne passeront pas à l'acte. Non pas qu'ils aient une nature meilleure que celle dont on est en train de parler aujourd'hui, mais en effet, il faut tout un village pour élever un enfant. Et il y a des milieux, il y a des endroits où ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, je suis désolé, je vais partir de parler de l'affaire de Samara, mais l'affaire de Samara, c'est exactement l'inverse. C'est un écosystème qui a engendré cette violence. C'est-à-dire que c'est une pression sociale exercée sur celle qui, en gros, s'habille à l'européenne. Je cite sa maman avant qu'elle se reprenne. Voilà. Et là, pour le coup, vous avez au contraire le village, pour reprendre votre expression, le village qui se ligue contre elle. Donc c'est un écosystème qui favorise la violence et qui favorise ça. De la même manière, le petit chef Cédine, je pense qu'il n'a pas été aidé par l'environnement dans lequel il est, il évoluait. Donc, vous avez raison, les chiffres, c'est compliqué de les commenter, mais en revanche, par contre, ce dont on est certain, c'est qu'on pourrait commenter tous les jours une chose de la sorte. Et moi, j'essaie de les distinguer. Par exemple, j'étais sur votre plateau l'année dernière quand on a commenté le meurtre de la professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Je pense qu'il était compliqué de tirer le fait de société de cet événement. C'était dramatique, évidemment. On l'a dit, il y avait de la psychiatrie qui était en cause, de la drogue aussi, je crois. Et là, en l'occurrence, des causes en fait, qu'on connaissait. Aujourd'hui, ce qu'on commente depuis quelques semaines, Samara, Chemsedim et compagnie, c'est plus un écosystème, c'est en gros une police de la charia qui s'installe et qui n'a pas de limite.
On va avancer dans Punchline. J'aimerais qu'on parte maintenant du côté de Bordeaux, où l'enquête progresse désormais après la blessure du chanteur Kenji Girac. On va rejoindre sur place Augustin Donadieu et Florian Paume. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes toujours devant le CHU de Haut-l'Évêque. Avec une première information, mon cher Augustin, Kenji Girac est donc entendu en ce moment même par les gendarmes. Vous nous le confirmez ?
Je vous le confirme, effectivement, cette audition était très attendue. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan avait prévenu. Kenji Girac répondra aux enquêteurs dès lorsque son état de santé le lui permettra. C'est chose faite. Il est actuellement en train de répondre aux questions des gendarmes. La question, elle est simple. Est-ce qu'il va maintenir la version qu'il a donnée au secours lorsqu'il a été pris en charge dans la nuit de dimanche à lundi, à savoir qu'il aurait manipulé seul cette arme et qu'il s'agissait d'un tir accidentel? En tout état de cause, les précédents témoignages, les précédentes auditions de ses proches dont sa compagne viennent attester ce scénario, un scénario qui fait état effectivement d'un tir accidentel et d'une manipulation de l'arme par Kenji Girac lui seul.
Augustin, l'autre information d'aujourd'hui, c'est que le coup de feu a bien eu lieu dans la caravane, dans un huis clos familial. C'est bien cela ?
Effectivement, tout à fait. Les premières expertises balistiques viennent attester le fait que le tir de l'arme à feu a bien eu lieu dans la caravane. Et selon les premières auditions, dans cette caravane se trouvait évidemment Kenji Girac, accompagné de sa compagne et de sa petite fille de 3 ans. Alors il faut savoir que la loi du silence est très importante chez les gens du voyage, dans cette communauté. Ils sont très peu enclins à partager leurs informations. Mais tout de même, avec Florian Paume qui m'accompagne, ils nous ont confié qu'entre Kenji Girac et sa compagne, il y avait une certaine tension ces derniers temps, que lors de cette soirée, cette nuit de dimanche à lundi, il y avait de l'alcool sur cette aire d'accueil des gens du voyage. Alors les enquêteurs vont tenter de savoir si véritablement Kenji Girac s'est tiré lui-même une balle dans le thorax ou si un tiers a pu intervenir. Des analyses des vêtements des protagonistes vont être effectuées pour tenter de retrouver de la poudre sur tel ou tel vêtement et ainsi déterminer qui portait cette arme au moment où Kenji Girac a été blessé au thorax.
Voilà, et on lui souhaite, Augustin Donadieu et Florian Paume, de se remettre rapidement sur pied. Il y a des inquiétudes quand même sur son état de santé à terme, c'est bien cela, Augustin ?
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, avec Florian Paume, nous étions à l'intérieur de cet hôpital Haut-l'Évêque au sud-ouest de Bordeaux. Une cinquantaine de personnes de la communauté, des gens du voyage, étaient présentes pour soutenir l'un des leurs. Et ils étaient là également pour se rassurer entre eux, parler, partager un petit peu leurs émotions. Et effectivement, nous avons pu entendre une certaine inquiétude quant à la capacité du chanteur à pouvoir remonter sur scène et à reprendre le micro. Il y avait même une personne qui racontait un appel téléphonique qu'il avait avait eu quelques minutes auparavant. Un appel téléphonique très peu rassurant, selon ce que ce dernier disait à sa famille, faisant état d'un Kenji Girac pouvant peut-être ne pas être en capacité dans les prochains mois, dans les prochaines années, de pouvoir reprendre le micro. C'est évidemment ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr.
Bien, merci Augustin Donadieu. Florian Paume, on souhaite qu'il puisse remonter sur scène et donner du bonheur à tous ceux qu'il aime. Il est 18h30, merci beaucoup pour toutes ces informations. Lors du rappel des titres de l'actualité, c'est News Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.
François Fillon, reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, la Cour de cassation a toutefois ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées à son encontre. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains jours. François Fillon a été condamné le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Après la mort hier de 5 migrants dans la Manche, 3 personnes ont été interpellées aujourd'hui au Royaume-Uni. Il s'agit de 3 Soudanais âgés de 19 à 22 ans. Qui sont soupçonnés d'avoir facilité l'immigration clandestine et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni. C'est ce qu'a indiqué l'agence britannique de lutte contre la criminalité. Et puis l'armée israélienne mène une action offensive dans le sud du Liban. C'est ce qu'a indiqué le ministre israélien de la Défense aujourd'hui, Yoav Gallant. Selon les autorités israéliennes, la moitié des commandants du Hezbollah présents dans ce secteur ont été éliminés. Difficile de savoir pour le moment si les forces israéliennes ont pénétré sur le territoire libanais.
Merci beaucoup Simon Guillain. On va prendre maintenant la direction de Plaisir dans les Yvelines pour une actualité un peu plus légère. Un match de foot du Variété Club de France avec notre ami Jacques Vendroux et le président Macron qui a chaussé les crampons pour la bonne cause puisqu'il s'agit de récolter des fonds pour l'opération Pièce Jaune présidée par son épouse Brigitte Macron. On voit en ce moment même, et je le dis pour nos auditeurs, le président avec voilà, son maillot, son short blanc, des grandes chaussettes grises qui dribble. Alors je vais demander aux garçons de m'aider un tout petit peu sur le commentaire sportif et footballistique. Je crois qu'il y avait un partout à la mi-temps parce qu'il est 2-2.
Il me semble, mais j'avais vu un deuxième but avant de faire la publicité, pardon.
Bon. Alors voilà, il a un maillot avec marqué Quick. C'est l'enseigne 1.
C'est le sponsor.
Ouais. Voilà. Merci. Jusqu'ici, ça, tout va bien. Et donc, on voit le président sur le terrain. C'est une bonne chose, Eric Revel?
Bon, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Hein. On n'oublie pas pour autant les problèmes qu'a ce pays. Ils sont multiples. Mais bon, je me pose toujours la question, parce que là, il doit y avoir des services de sécurité autour du terrain à Plaisir dans les Yvelines, je me pose toujours la question de est-ce qu'on donne des consignes ou est-ce que ça va de soi.
De ne pas le tacler.
Bah ouais, c'est ça, de ne pas le tacler, vous voyez, de faire attention à ses chevilles. Bon, en même temps, je regardais, je suis pas un spécialiste, il faudra demander à Jacques, mais je regardais, non, c'est pas lui qui est tombé. Ah mais là, il est à différents endroits du terrain, donc je sais pas s'il connaît bien la place qu'il doit occuper, parce que je le vois.
Vous voulez dire que le gouvernement, il est un peu partout.
Alors, mais il est en même temps à gauche, à droite, au centre et derrière. Il y a que dans les buts où Jacques Vendroux.
Jacques Vendroux, je suis sûr qu'il sera chez Pascal Praud tout à l'heure. Donc Geoffroy, vous qui êtes un grand amateur de foot.
Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce match? C'est un peu déséquilibré.
Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien.
Non, mais attendez, je vais vous faire le commentaire. Moi, on est sur la station de Eugène Saccomano, la station mythique. Alors, je vais faire Eugène Saccomano. Non, mais le match est un peu déséquilibré parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs.
Du plat du pied.
Exact. Mais bravo,
on a fait le match.
Travaillé avec Saccomano.
Incroyable.
J'ai commencé.
Moi, j'ai écouté ça quand j'étais petit. C'était mythique. L'équipe est très déséquilibrée parce qu'il y a beaucoup de champions du monde qui jouent avec le président de la République.
Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Christian Carambeu.
Exactement. Et j'ai cru voir Eden Hazard, qui est un ancien champion, mais qui était encore en activité il y a quelques années. Donc, il doit avoir une grande forme, donc je pense qu'ils sont en train de mener au score, et j'avais vu en effet un deuxième but, et après disons la vérité et
ah joli, oh c'est Jacques là,
mais racontez pour nos auditeurs ce qui se passe là Eric.
On vient de voir un shoot de loin pardon Geoffroy, et j'ai cru voir le, mais ça, je sais pas si Jacques arrive à se propulser au-dessus de la
Jacques
barre.
Vendroux, alors Jacques Vendroux, on explique, oui. À nos auditeurs, il est dans les cages,
voilà, il est dans les cages, il est le numéro 20.
Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana, peut-être quelque chose
D'abord,
à me dire.
Que notre président est fan de foot, hein, fan de l'OM.
De l'OM, ouais.
Qu'on était plus habitué quand même à le voir en tant que boxeur, en boxant. Souvenez-vous, cette magnifique photo noir et blanc qui avait fait jaser.
C'est pas la première
boxant,
fois
qu'il participe à des matchs, plus que sur un terrain de foot. Et à la fois, c'est de bon augure, parce que je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que demain, il prononcera un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. Mm-hmm. Et qu'on a un mois et demi des européennes. Donc, il est temps de mouiller le maillot et de jouer collectif. parce que son camp est quand même un peu en difficulté face
et là, au là, quand même, là, sur le terrain, ils sont à 4-1 pour l'équipe du président. Voilà. Ils sont
en train de faire la bonne équipe. Il est quand même bien épaulé par beaucoup d'anciens champions du monde.
Je pense qu'il il avance bien. Jean-Sébastien Ferjou, sur ce match de foot avec le président pour les pièces jaunes, on le rappelle.
Oui, non, mais justement, c'est ça qui compte. C'est la cause humanitaire défendue. Emmanuel Macron aime le foot, on le sait. C'est pas la première fois qu'il participe à un match amateur.
On l'a déjà dit, Jean-Sébastien.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez en dire d'autre que ça? On va pas en tirer des conclusions politiques particulières. Après, il aime aussi s'afficher dans des poses plus ou moins avantageuses, et il le fait depuis qu'il est président. Mais enfin, là, c'est pour une cause humanitaire. Donc, à la limite, je préfère quand il le fait pour une cause humanitaire que quand il le fait sur Instagram, dans le genre de photo auquel faisait référence Tatiana Renard-Barzac, où on voit bien une espèce de souci assez narcissique de sa personne qui se dégage.
Mais un président a le droit de jouer au foot et de faire du sport.
Bien sûr, heureusement qu'un président a le droit.
Nicolas Sarkozy, fan de foot.
Il y a une réduction du sport.
Mais Instagram, publier des photos de soi-même sur Instagram n'est pas un sport, Laurence.
Tout le monde vous a interrompu, allez-y.
Non, je disais, on a quand même eu plein de présidents fans de foot. J'ai un Nicolas Sarkozy fan de foot, François Hollande aussi. On les a vus sur des stades, sur des terrains de foot. On a vu François Hollande il y a encore quelques années mouiller justement le maillot. Donc voilà, c'est pas antinomique. Et puis surtout, on est quand même une nation très foot. On a quand même des clubs magnifiques. Donc voilà, c'est bien. Et pour prolonger ce que disait Jean-Sébastien, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu narcissique dans ses photos en effet noir et blanc de boxeur. Et peut-être que là, il joue plus collectif. C'est peut-être plus voilà, c'est un message politique plus intéressant, je pense, quand on l'accuse beaucoup de verticalité dans sa façon de diriger.
Il y a peut-être un message politique, il y a surtout un message footballistique. Pour l'instant, l'équipe du président mène 4-2, donc si on en croit les informations, je crois le jeune.
4-2, j'ai juste vu une réduction du score, en effet. Mais il y a une chose, un petit commentaire qui est à la limite du football, de la psychologie et de la politique. Ça n'a pas été évident pour Emmanuel Macron, qui aime bien être le meilleur d'entre eux, le premier en tout, très à son avantage, etc., de se retrouver sur terrain où, pour le dire poliment, c'est pas le meilleur joueur.
C'est stimulant.
Non, c'est pas Deschamps qui a beaucoup plus que son âge, se débrouille encore très bien.
Allez, voilà pour ce match du Variété Club de France. Jacques Mondrou, je pense, fera le débrief de ce match chez Pascal Praud tout à l'heure à 20h. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, c'est nous Europe 1. On reparlera de la sécurité, de la jeunesse, des personnes qui sont mises en cause en ce moment dans les affaires. Plusieurs tentatives d'attentat déjouées, comme nous le disait Sandra Bichon il y a quelques instants, avec les mineurs de moins de 16 ans. Thibaut de Montbrial est notre invité. À tout de suite. 18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Thibaut de Montbrial est notre invité. Bonsoir Thibaut de Montbrial.
Bonsoir.
Merci d'être là, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Deux informations qui ont permis de débuter cette émission avec deux jeunes de 16 ans, l'un à Antibes, l'autre en Haute-Savoie, qui cherchaient à commettre des actions violentes. L'un a été signalé par son pédopsychiatre. L'autre s'est radicalisé, cherchait sur Internet comment fabriquer une ceinture d'explosifs. Tout ça pour l'actionner lors des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est face à une accélération de la violence des mineurs?
Ben, c'est l'impression que ça donne. Il faut remettre les choses en perspective. Il y a toujours eu chez les jeunes parfois de la violence, mais ceux qui prétendent que rien n'a changé structurellement sont dans le déni absolu. On a depuis des années une augmentation d'une violence souvent qui apparaît souvent gratuite, c'est-à-dire dont les causes sont de plus en plus dérisoires et dont l'intensité est de plus en plus aiguë. C'est-à-dire que quand il y avait des bagarres il y a 15 ou 20 ans, il y avait un moment où les gens s'arrêtaient de se battre et on s'en sortait avec un nez cassé, des saignements, etc. Une fois de temps en temps, il y avait un accident parce qu'il y avait une tête qui cognait le trottoir, mais globalement, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a affaire à des violences qui sont des violences de meute, des violences de lynchage, souvent sur fond tribaux ou ethniques, hein, il faut le dire. Et ça, c'est une nouveauté des 20 dernières années qui est liée directement à l'immigration débridée. Et en tout cas, avec des jeunes qui n'ont plus du tout d'empathie. Le professeur Maurice Berger le dit très bien. C'est-à-dire que l'autre est totalement déshumanisé et que l'hypothèse de la mort de l'autre n'est absolument plus un problème. Et ça, c'est un phénomène de société qui est extrêmement inquiétant, qui a évidemment une dimension éducative et psychiatrique, mais pas seulement. Et que on ne peut considérer simplement sous l'un des angles, c'est-à-dire...
Il faut prendre ça dans sa globalité.
Il faut le prendre dans sa globalité, frappe... et notamment dans une dimension pénale et de sanctions, qui est quand même la grande absente de la réponse de l'État à la violence des jeunes.
Ce qui frappe Thibault de Montbrial, et je vais passer la parole ensuite à Geoffroy Lejeune et Eric Revel, c'est l'âge des mises en cause. Dans plusieurs affaires, ils ont 14 à 15 ans. Oui. C'est-à-dire que ce sont vraiment des encore presque des enfants. J'aimerais juste qu'on écoute la mère d'un des mis en cause dans l'affaire de Grande-Synthe. Grande-Synthe, c'est le jeune Philippe, 22 ans, qui a été tabassé à mort la semaine dernière. C'est les obsèques étaient célébrées cet après-midi. Elle avoue ne pas comprendre ce qui s'est passé et elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai loupé dans l'éducation de mon fils? On écoute rapidement et je vous passe la parole ensuite.
Alors, qu'est-ce qui me peine, c'est de savoir qu'il est en garde à vue. Et qui dit garde à vue dit qu'il y a des preuves contre lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête parce qu'au lieu de m'avoir dit la vérité, que j'aurais pu aller en parler directement, que me faire passer pour quelqu'un de responsable, que c'est à cause de moi qui ont fait ça. Vous voyez, là, j'ai des sacrés messages. Moi, j'apprécie pas. Il faut pas non plus se voiler la face qu'effectivement, il doit être dedans. Mais... pourquoi m'avoir menti? S'il est vraiment dedans, je ne me concerne pas ce qu'il a fait. Et franchement, il m'a déçu et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur... sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas. S'il est impliqué dedans, je comprends pas pourquoi il a fait ça. S'il est coupable, je vais avoir du mal à m'en remettre. Parce que c'est pas mon éducation. Je les ai toujours bien éduqués, toujours... Noah, déjà, de base, n'est pas connu pour des violences à l'extérieur ou violences à l'école. Il n'y a pas, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est vrai que je le redis, je le redirai toujours. S'il a fait une connerie, il doit payer.
Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage recueilli par Fabrice Elsner, Thibault de Montbrial. Les parents sont dépassés aujourd'hui.
C'est extrêmement difficile de réagir sur un dossier que je connais pas. Je connais absolument pas.
Là, je vous parle des parents.
Oui, non, mais c'est pour ça que non, mais je vais vous répondre. Mais je suis obligé de prendre de la distance par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre parce que je ne connais pas les détails de l'affaire et surtout précisément j'ignore ce qui est reproché au fils. De cette dame.
Les trois qui sont là, et dont le fils de cette dame, sont mis en examen et ont 14 et 15 ans.
Voilà. Oui.
Et ont participé au lynchage.
Ils ont participé au lynchage, mais je ne connais pas son profil, je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai. Vous voyez, quand elle dit qu'il n'est pas connu pour violence, j'ai absolument aucun moyen de savoir si elle dit la vérité, si elle se cache des choses, si elle nous cache des choses. Tout ça. Donc, je préfère ne pas réagir sur le témoignage. Maintenant, si on prend du recul et qu'on revient à la question de la responsabilité parentale, il est absolument évident que l'une des raisons de ce quasi-effondrement sociétal qu'on est en train de vivre, parce que je pense qu'il faut employer les mots qui correspondent à la réalité, c'est que la notion de responsabilité a totalement fui les différentes arcanes de notre société, à commencer par les familles. Donc il y a une déstructuration de la cellule familiale, il y a des difficultés qui sont liées aussi, là encore, à des modes de vie différents, des cultures différentes dans des familles qui ont du mal à trouver leur place dans la culture française. Tout ça, ça compte, mais d'une manière générale, les familles ne sont pas responsabilisées et comme elles vivent dans un environnement où plus personne n'assume ses responsabilités, c'est extrêmement difficile pour elles de tout à coup dans une vie quotidienne qui est parfois difficile, de se retrouver seules en charge de leurs enfants. Mmh. Et pourtant, dans un monde qui marcherait droit et où l'église serait au centre du village, la responsabilité commence par l'éducation des enfants, par les parents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis absolument favorable, dans des conditions évidemment qui doivent s'intégrer dans une politique plus globale, mais à ce que les parents soient absolument responsabilisés dans le cadre de la réponse.
La mère a dit, s'il a fait quelque chose, c'est lui qui doit payer. C'est pas nous.
Oui, mais ce qui est dans l'absolu, oui. Si à partir de l'enfant est mineur, ça n'est pas
c'est
possible.
C'est
aussi la responsabilité des parents.
Bien sûr. Geoffroy Lejeune, une question.
L'intérêt d'écouter Thibault Mouriel, c'est qu'il a toujours un diagnostic extrêmement juste, mais il vient toujours avec des solutions aussi en plateau. Donc moi, ma question va porter sur une solution. Vous avez cité tout à l'heure Maurice Berger. Une de ses théories, c'est que à la première incartade d'un jeune, même si elle n'est pas très grave, il faut sanctionner immédiatement et il faut que ça serve de leçon pour éviter toutes les incartades à suivre et tous les drames qu'on connaît aujourd'hui. Certains jeunes, notamment là dans le cas de Philippe, mais même dans les autres exemples de l'actualité, ils ont déjà été confondus pour violence, pour d'autres faits, et manifestement la sanction n'a pas été dissuasive. Pour cela, ceux qui sont déjà en dehors de ce que Gabriel Attal par exemple appelle le droit chemin quand il est face à eux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les enfermer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour ces problèmes? Ils sont de plus en plus nombreux en réalité et on ne sait pas quoi en faire et ça provoque des débats, des indignations, etc.
Alors j'ai pas de baguette magique, mais j'ai quelques convictions. La première, c'est qu'il est absolument indispensable de restaurer pour les jeunes un système de réponse pénale qui soit compréhensible par les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a un système où le jeune comparaît une première fois devant un juge qui lui dit que ce qu'il a fait est mal et qu'il va être condamné, mais on diffère le prononcé de la peine à 6 à 9 mois. Et du coup, le jeune sort et l'impression qu'il a, c'est qu'il n'a rien eu. Parce que tout le reste, qu'on laisse 6 mois pour que la société puisse évaluer si son comportement évolue pendant les 6 mois, c'est un truc d'intellectuel. C'est un truc dont on peut parler dans des colloques au centre de Paris. Mais dans la réalité de terrain, avec des gens qui sont très déstructurés, qui n'ont pas les outils personnels pour se projeter.
Il faut une sanction tout de suite.
Mais il faut une sanction tout de suite qui n'est pas besoin d'être excessive, mais qui doivent être... Et on lui dit, ce que tu as fait, c'est mal, tu as franchi une ligne, il y a une sanction. Quand il y a violence, c'est pas le cas à chaque fois, mais quand il y a violence, et je le dis depuis longtemps, c'est en train de revenir à la mode dans le discours. Moi, ça fait 10 ans que je le dis, et à l'époque, j'étais bien seul. Il faut absolument, à rebours de tout ce qui a été fait, notamment depuis 2017 par Emmanuel Macron, qui a même dit le contraire dans des discours, il faut réhabiliter les peines de prison très courtes. De 8 à 15 jours, dans des établissements dédiés, dans lesquels le jeune est privé de liberté, mais avec des mesures éducatives d'accompagnement. Il ne s'agit certainement pas de dire que ces jeunes sont perdus et que la société ne va pas s'occuper d'eux. Il s'agit de dire que ces jeunes doivent comprendre qu'ils ont commis une faute qui doit...
Dont ça la s'appelle sanction, les centres d'éducation fermés, non?
La sanction. Moi, je pense que c'est même
renforcé.
C'est plus que ça. Ah oui, moi, je pense que c'est des prisons. Je pense que c'est de la prison pour les violences. Il faut aller jusqu'à la prison avec des peines courtes dans des centres, dans des établissements où, en plus, on fait des mesures éducatives. Il ne s'agit pas d'abandonner ces jeunes, mais il faut qu'ils sentent qu'il n'y a pas un discours qui peut être plus ou moins fort. Mais derrière une lâcheté parce que l'État n'exécute pas, parce qu'il n'y a rien de pire. Le système actuel, la société, ceux qui l'ont conçu, considèrent que c'est un système bienveillant pour tendre la main une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. En face, il est compris comme de la faiblesse et comme de la lâcheté, absolument. Et donc comme un blanc-seing pour continuer à commettre des violences.
Éric Revel.
Oui, alors certains feront remarquer, Thibault Nourrial, que la prison, alors peut-être une période courte, hein, c'est pas forcément le meilleur... endroit sans doute le plus coercitif, mais pour tracer un chemin plus droit ensuite. Hein. Vous savez, on dit qu'on
ça dépend ce qu'on y fait.
Alors ça dépend ce qu'on y fait. Mais en fait, c'était pas ma question. C'était une remarque à ce qu'on y dit. Mais je voudrais prolonger la question de Geoffroy Lejeune. Vous le disiez tout à l'heure et Laurence Ferrari l'a précisé. En fait, les profils sont de plus en plus jeunes. On massacre quelqu'un à coups de batte de baseball à 13 ans, à 14 ans. Quoi. Est-ce que avec cette évolution funèbre de cette jeunesse, il ne faut pas faire évoluer le statut pénal des mineurs?
Alors, je crois qu'il faut faire, il faut faire très attention à ne pas tomber dans un piège. Le piège serait de passer d'un extrême à l'autre et de dire, maintenant, j'ouvre les guillemets, je ne sais pas quelque chose que je pense. Ce serait le discours dans le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tous ces jeunes, en fait, c'est plus des jeunes, donc on va les traiter comme des adultes et on va les sanctionner et on ne tient plus compte de leur minorité. Il faut continuer à tenir compte de leur minorité. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut changer drastiquement. C'est que le système aujourd'hui repose sur ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à 18 ans, les peines encourues par un jeune pour un fait répréhensible sont divisées par deux par rapport aux mêmes faits, aux peines encourues pour un majeur pour les mêmes faits. Je pense qu'il faut inverser le système de l'excuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que, ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui commet un délit ou un crime bénéficie de cette excuse de minorité, sauf si le juge le motive expressément. Évidemment, ça n'encourage pas les juges à faire une telle motivation. Je pense qu'il faut inverser le système. Le jeune est considéré comme dans le système normal, sauf si, pour des raisons propres à sa situation à lui, le juge décide
de remettre
l'excuse de minorité. Ça change tout, et dans le symbole, et dans la pratique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de juges qui le feraient
Ça sert à quelque chose Nice, Béziers, couvre-feu pour les mineurs.
Il y a une règle de base, Laurence Ferrari, il y a une règle de base. Quand on édicte des règles...
Sauf qu'il faut le faire respecter, le couvre-feu.
Il faut les faire respecter.
Il faut des policiers pour le faire respecter.
Vous finissez ma phrase, vous commencez à me connaître.
Pardon.
Quand on édicte des règles, il n'y a rien de pire que d'édicter des règles qu'on n'est pas capable de faire respecter. Donc, il ne faut pas avoir de trop grandes ambitions. Le Yaka Faucon va faire des trucs généraux partout. Non, attention. Par contre, si on décide de mettre en place un couvre-feu territorialement limité, avec des horaires précis, il faut se donner les moyens, et en particulier les moyens policiers, ça peut être policiers nationaux, municipaux, etc., de faire respecter ce couvre-feu. Il n'y a rien de pire que les gesticulations et les effets d'annonce non suivis d'effets.
Il faut des patrouilles la nuit, il faut des policiers,
Et voilà, et donc ça,
n'est pas le cas partout.
Ce qui n'est pas le cas partout, c'est une question de moyens, c'est aussi pas tant une question de moyens que d'organisation. Ça implique aussi de remettre en cause donc les organisations de tel ou tel service de police, de gendarmerie, etc. Donc c'est un travail qui doit être concerté, c'est pas juste une brusque pulsion d'un maire, ça doit s'intégrer dans une réflexion et une coordination indispensable entre les élus locaux et les forces de police. Cette gendarmerie et la justice. Et moi, je pense que les élus locaux, on doit leur donner vraiment beaucoup de moyens. Ils sont un maillon essentiel de la lutte contre la délinquance. Ils connaissent leur population, leur territoire. Il faut les associer.
Le gouvernement a précisé cet après-midi par la voix de sa porte-parole, Prisca Thévenot, qu'il ne s'opposerait pas au maire qui voudrait prendre des mesures de couvre-feu. Les Français, d'ailleurs, réclament cette mesure à 67% selon un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Faut-il généraliser un couvre-feu pour les... Il faut généraliser un couvre-feu, selon vous,
Je pense qu'il faut que les situations évoluent en fonction des nécessités du terrain. Je voudrais dire une chose par rapport à ce que dit le gouvernement. J'entends, depuis que Gabriel Attal est Premier ministre, il y a une chose qui, moi, me réjouit à titre personnel, c'est qu'il y a un emprunt massif à tout ce que j'écris depuis 10 ans.
Oui, le choc d'autorité,
Il y a même la contraction dans la dernière annonce du Premier ministre des titres de mes deux derniers livres, Osons l'autorité et le sursaut ou le chaos. Donc je m'en réjouis. Mais... ce qui me réjouirait vraiment, c'est qu'on passe de la parole aux actes. Les postures martiales, c'est très bien, mais d'entendre dans le même temps Gabriel Attal tenir les propos qu'il a tenus la semaine dernière et le président de la République annoncer un énième Grenelle, cette fois-ci sur la violence des jeunes.
Mineurs.
C'est-à-dire que dans le même temps que Gabriel Attal tenait des propos qui étaient remarquables, mais dont on attendait qu'ils soient suivis des faits, le président de la République, avant même que le Premier ministre puisse mettre en place sa politique, débranchait la prise en disant on va commencer par faire un Grenelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire après ? On va faire un livre blanc et puis après on va faire une tournée en France. Le constat, il est fait depuis longtemps. Les mesures, elles existent. Tout ce que les Français attendent, car je pense que ce serait une politique qui serait plébiscitée à plus de 70%, c'est le courage politique de prendre les mesures pour protéger notre population.
Thibaut de Montréal était l'invité de Punchline. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Geoffroy Lejeune, Eric Revel. Dans un instant, Europe 1 Soir sur Europe 1 et sur CNews. Face à l'info, bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Et à demain.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.